parlais. Alors par contre, elle parle dans le micro, voici le bisou.
Tu penses que je vais attendre?
Ben si, parce que c'est enregistré. Bonsoir, bienvenue à l'espace Mendès France. Donc ce soir, dans le cadre de l'exposition sur les argiles, histoire d'avenir, qui a donc été inaugurée le 11 janvier et qui est présentée dans la salle à côté, que je vous invite bien sûr à venir visiter si vous n'avez pas encore fait, mais vous avez le temps, elle est présentée donc jusqu'au mois de septembre. Donc pour accompagner cette exposition, nous avons programmé 3 conférences et ce soir, donc, c'est la première de ces conférences et j'ai le plaisir d'accueillir 2 collègues donc, de l'Université de Poitiers, monsieur donc, Alain Meunier, qui est professeur au laboratoire Hydrasa, ainsi que son collègue qui est donc monsieur Daniel Beaufort, également professeur dans le même laboratoire. Et donc, bien sûr, ils vont venir nous parler des argiles. Et donc, la première intervention, argile, donc, est l'origine du monde. Et suite à cette présentation, donc, vous pourrez poser vos questions. Et après, on passera le micro donc, à monsieur Beaufort. Voilà, je vous laisse la parole.
C'est une épreuve toujours de parler dans un micro. Mais parler de ce qui vous intéresse n'est jamais une épreuve. Et en parler avec mon frère dans les argiles, ça va être un plaisir, surtout qu'on est d'accord sur rien. Donc, je vais entamer mon discours, moi, quitte à être prétentieux, autant l'être totalement, l'origine du monde. Hein. Rien de moins que ça. Alors, j'ai découpé mon histoire en tableaux. Et on va commencer par le premier qui est « Depuis quand l'humanité parle-t-elle d'argile ?» Bien sûr, la Bible. Adam, pour ceux qui ne le sauraient pas, peut-être qu'il y a des étudiants incultes au fond, là. Hein. Adam a été construit par Dieu à partir d'argile, c'est-à-dire une pâte molle, une bonne pâte. Pour faire les femmes... Il a pris une côte qui était un os plat particulièrement coriace. Les voies de Dieu sont impénétrables, mais certainement, il y a une raison. Quoi qu'il en soit, l'humanité baigne effectivement dans l'argile depuis ses débuts. Et cette statuette, qui est d'ailleurs reproduite dans l'exposition, est littéralement fascinante. Regardez son âge, 26 000 ans, Lascaux c'est 15 000 ans. Et c'est de l'argile avec de la poudre d'os qui a été cuite. C'est-à-dire, ces gens-là étaient sur le chemin de la faïence, il y a 26 000 ans. Bien entendu, tous les objets usuels de la vie courante, depuis le néolithique et même au-delà, sont fabriqués avec de l'argile. C'est ce qu'il y a de plus malléable, de plus... façonnable, et c'est comme ça que l'humanité s'est construite et que l'agriculture s'est développée parce qu'on savait stocker les réserves alimentaires. Mais déjà les Chinois. Et vous allez voir qu'ils étaient techniquement extrêmement avancés. Regardez, 3200 ans, nous n'étions capables que de faire des poteries grossières avec des vagues traits dessus pour les ornementer. Ça, c'est déjà une glaçure. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu dès l'entrée dans l'exposition, nous avons appris l'écriture sur l'argile. Ça, ce sont des tablettes sumériennes qui datent du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc, nous baignons dans l'argile depuis des temps immémoriaux. Alors, comment est-ce que, après ces découvreurs de la pâte molle à base d'argile, comment est-ce que le développement de la science des argiles s'est progressivement installé au fil des siècles? Alors d'abord, c'est le temps des commerçants et c'est le temps des ingénieurs. Et le challenge, si j'ose dire, pour parler français, le défi, c'était de... trouver le secret de cette porcelaine que seuls les Chinois savaient fabriquer et qui inondait les marchés européens via la route de la soie qui véhiculait ces produits manufacturés. Deux choses. C'était des produits qu'on ne savait pas faire. La porcelaine était totalement inimitable. Et elle était fabriquée industriellement. Comment le faisaient-ils? On le sait maintenant. On sait qu'ils utilisaient ce sont des roches particulières qui ressemblent à des granites. C'est des pegmatites altérées qui ont comme particularité de fabriquer du kaolin et de laisser des feldspaths, c'est-à-dire ce qui permet de fondre l'argile. Il y avait les deux à la fois. Alors, c'est la première histoire patente d'espionnage industriel. Et là, c'est l'espionnage dans l'autre sens. C'est nous qui cherchions à piquer les secrets de fabrication des Chinois. Il n'y en a pas dans la salle, mais ils pourraient nous rétorquer ça. On les accuse d'imiter. Nous avons commencé, nous, par les imiter. Et alors, à la suite du voyage de Marco Polo, les Génois et les Vénitiens se sont engouffrés dans ce satané marché qu'ils n'arrivaient pas à eux à concurrencer parce qu'ils ne savaient pas faire la porcelaine. Alors on a tout essayé. On a fait une mauvaise porcelaine, une imitation, en faisant fondre des tas de choses dont certaines étaient innommables. J'ai mis que ce qui était avouable là, mais on a essayé de fondre aussi. Bon, bref. Et ça ne marchait pas, ça faisait des porcelaines de mauvaise qualité, puisqu'elles ne tenaient pas la transparence et elles se cassaient facilement. Eh bien, notre compatriote, même si je suis vieux, je vois certains hésitent. Non, j'étais pas né à ce moment-là. Bernard Palissy, mon confrère, géologue, c'était un géologue, a échoué. Il n'a fait que de la faïence. Et il a fallu attendre les Autrichiens, qui, eux, sont arrivés à faire de la vraie porcelaine à partir d'une expérience tout à fait fortuite. On n'est jamais à l'abri d'une découverte. En utilisant la poudre blanche qui servait à poudrer les perruques et en la faisant cuire à une certaine température assez élevée, on est arrivé à faire de la porcelaine. Alors, les Français là-dedans. Les Français, comme toujours, nous essayons de faire des choses qui durent sur le plan de l'enseignement, mais qui sont inefficaces sur le plan du commerce. Néanmoins, on a trouvé, et c'est à Limoges, on a trouvé les ingrédients nécessaires, naturels, ressemblant à ceux des Chinois, pour faire la porcelaine, c'est-à-dire des roches granitiques altérées qui contenaient des feldspaths et des kaolins. Et on a publié, bien sûr, un ouvrage très savant qui explique comment faire la porcelaine. Passé le temps des marchands et des ingénieurs, on arrive au temps des savants. On arrive toujours en retard. Le temps des savants, là, il faut rendre gloire au père de la chimie moderne, Lavoisier, qui a découvert un élément chimique qu'il a appelé d'ailleurs l'élément, le métal des argiles, c'est l'aluminium. Mais il est mort prématurément. Vous le savez sans doute, on a coupé une tête de trop pendant la Révolution. Et c'est finalement un Anglais, bien sûr, après, qui a isolé, caractérisé, puis isolé l'aluminium en 1809. Et ce qui est fascinant, c'est que dès que la publication de Davis a été connue en Europe, on a fait l'analyse chimique de l'aluminium pour les argiles. Et le premier qui l'a fait, c'était Brongniart, justement, qui travaillait pour la manufacture de porcelaine de Sèvres. Et puis après, on a eu les gens qui découvraient les argiles, les gisements. Et celui qui est, à bon sens, le plus formidablement astucieux, c'est Berthier, qui était un ingénieur des mines, 1827, qui a décrit à Nontron, une argile qui est devenue un type universel, un type caractérisé d'argile qu'on appelle la nontronite. Que vous soyez américain, chinois ou finlandais, vous appelez la nontronite une argile riche en fer. Et ça a été publié dans les annales de chimie et de physique pour mes collègues qui sont là. À l'époque, les physiciens étaient beaucoup plus ouverts que maintenant. Ils acceptaient des articles de géologie. Hein. Vous voyez au passage qui étaient les directeurs de la publication. On ne fait pas mieux, hein, Gay-Lussac et Arago. Bon. Peu de temps après, 1847, alors là, c'est l'explosion, la montmorillonite. C'est l'argile la plus célèbre au monde. À telle enseigne d'ailleurs qu'elle a servi pendant très longtemps à décrire toutes les argiles gonflantes. Il n'y a pas que les profs qui soient gonflants, les argiles aussi, messieurs. Et ça a été découvert à Montmorillon, c'est pour ça que ça s'appelle la montmorillonite. Et l'analyse chimique est caractéristique d'une argile alumineuse. Mais une composition chimique ne suffit pas à caractériser un minéral. Un minéral, c'est une structure tripériodique qui doit avoir des propriétés de diffraction de la lumière et d'une lumière particulière qui est celle des rayons X. Et on peut trouver la façon dont un cristal est organisé dans son intimité, dans son anatomie, par diffraction de rayons X. Donc il a fallu attendre l'inventeur de la mise en évidence des rayons X, c'est Röntgen, qui a courageusement mis la main de sa femme dans le faisceau de rayons X, et il a eu le prix Nobel pour ça. Alors, que sont les argiles? Les argiles, ce sont des phyllosilicates, c'est-à-dire, silicates, ça veut dire des minéraux qui contiennent du silicium, et phyllo, qui s'organisent en feuillets. D'où vient le silicium? C'est un des éléments les plus répandus dans l'univers, qui se fabrique dans le cœur des géantes rouges. Et il a une particularité, vous savez qu'un atome, c'est un noyau avec des électrons qui gravitent autour, et ces électrons ont des propriétés un peu bizarres que les chimistes arrivent à nous expliquer, même à nous géologues, et ça finit par faire, par hybridation des orbitales, une configuration tétraédrique avec quatre directions où les électrons vont se trouver plus particulièrement. Cette direction, cette organisation tétraédrique, vous allez voir que c'est le secret des silicates et en particulier des phyllosilicates. Alors, là, je suis bien content de mettre un peu de géométrie pour montrer que je ne suis pas nul en maths. C'est niveau quatrième, hein, quand même. C'est la dimension de ces liaisons qui vont s'organiser autour des siliciums et qui vont faire des tétraèdres. Donc ce sont des dimensions très faibles. Vous allez voir, la hauteur d'un tétraèdre, c'est quelque chose qui se mesure à 2,10 angstroms. Un angstrom, c'est le 10 milliardième de mètre. C'est pas beaucoup. Donc tout ceci est très petit. Cependant, ça s'organise par polymérisation, ça fait une couche bien organisée, où les atomes d'oxygène qui sont là sont communs à deux tétraèdres, donc ça fait une surface qui est neutre électriquement, pas de charge. Mais l'oxygène qui n'est pas combiné, lui, garde une charge négative, si bien que cette couche tétraédrique a un côté neutre et un côté chargé négativement. Hélas, dans la nature, aucun minéral n'est une batterie, n'est une réserve d'électricité. Donc, cette structure-là n'est pas viable seule. Elle doit être neutre électriquement. Comment la rend-on neutre électriquement? On la rend neutre électriquement en y associant une couche supplémentaire, vous allez voir comment, qui est, elle, non pas tétraédrique, mais octaédrique, avec dedans soit du magnésium, soit de l'aluminium. Et la hauteur de ces octaèdres est très petite, c'est 2,45, 2,24 angstroms. Donc, couche de silicium, couche d'aluminium et de magnésium, l'une est tétraédrique, l'autre est octaédrique. Voilà ce que ça donne. Alors, bon, je vous passe sur les déformations, ça fait des jolis dessins, ça fait du papier peint, paraît-il, où on peut représenter la couche octaédrique, puis la couche tétraédrique avec l'oxygène qui va les accrocher. Voilà comment l'une s'accroche à l'autre. Et ça fait donc un feuillet très petit, et c'est ça la particularité des argiles, qui fait 4,34 angstroms d'épaisseur. Très mince, mais qui peut s'étendre jusqu'à des dimensions de microns, c'est-à-dire non pas le milliardième de mètre, mais le millionième de mètre. Alors, comment le sait-on ? Eh bien, les cristallographes, il n'y a que les Japonais qui sont imbattables dans ce domaine-là, pour arriver à faire des images de haute résolution par microscopie électronique qui nous montrent l'organisation de ces feuillets vus par une face ou vus par une autre face. Et on a comme ça la couche octaédrique, la couche tétraédrique qui sont vues comme ça ou dans une autre direction. Donc, ça a bien une réalité physique. Cette organisation en feuillets n'est pas une invention, c'est bien une organisation physique. Alors, bien sûr, une couche octaédrique a deux côtés. Donc, si on met une couche tétraédrique d'un côté, on peut aussi en mettre une dessous. Et puis, il suffit que cette structure tétraédrique, octaédrique, tétraédrique soit pas tout à fait neutre électriquement, et on peut avoir des atomes, des cations supplémentaires qui vont compenser la charge électrique de tout ça. Mesdames et messieurs, c'est la monomère ionique. La voilà. Elle est comme ça. C'est ce qui fait que les maisons s'effondrent. Parce que les cations qui se mettent là rentrent dans cette structure avec leur coque d'hydratation, avec l'eau. Et la quantité d'eau dépend de la sécheresse. Et donc, cette argile peut gonfler quand il y a beaucoup d'eau ou diminuer de volume quand elle perd son eau. Et donc, les assises sur lesquelles sont bâties un certain nombre de maisons dans la région sont des assises mouvantes qui créent des dégâts assez considérables parfois. Toutes les argiles ne sont pas gonflantes. Ça dépend effectivement de la charge de cette structure, tétraède, octaède, tétraède. Si la charge est forte, là, les cations sont bloqués, sont enfoncés dans la structure. Ils ne peuvent pas rentrer avec leur coque d'eau. Ça nous fait une argile qui est construite sur le même modèle, mais qui ne peut pas changer de volume. On appelle ça de l'illite, peu importe. Ceci dit, ça a une propriété très particulière, c'est que ces cations sont bloqués, ils ne peuvent pas changer, comme avec la monomère ionique, en fonction de l'environnement. Et là, les plantes n'arrivent pas tellement à utiliser le potassium, alors que pour la monomère ionique, il leur suffit de pomper les cations interfoliaires et l'eau qu'il y a dedans. Sans ces argiles, pas de vie, pas de conférence. Quelle tête ça a ? La monomère ionique, la voilà. Informe, mince, incolore. L'illite, la voilà, elle est beaucoup mieux cristallisée, ça fait des cristaux beaucoup plus grands. Regardez, nous sommes ici à l'échelle du micron, millionième de mètre. Ici, nous sommes à l'échelle du nanomètre, milliardième de mètre. Voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que ce sont les seuls édifices possibles ? Bien sûr que non. Du moment que les cristaux sont construits avec des feuillets, vous allez voir qu'on peut empiler à satiété des structures complètement différentes. Alors voilà un minéral qui est construit comme les deux précédents avec une couche de tétraède, une couche d'octaède, une couche de tétraède, mais entre deux feuillets successifs, il n'a pas de molécules d'eau ou de cation, il a à nouveau une couche d'octaède. C'est un minéral très répandu qu'on appelle la chlorite. Il y en a partout, dans les sols, dans les roches, partout. Donc, vous êtes convaincus, j'espère, les argiles sont des cristaux. Ça a beau faire de la boue et tacher vos chaussures, ce sont des cristaux aussi magnifiquement organisés que les belles améthystes que vous avez dans les magasins de bijouterie. La preuve, regardez cet ordonnancement. Voilà encore des photographies en microscopie électronique à haute résolution, faites toujours par nos collègues japonais. qui sont imbattables dans ce domaine, encore une fois, et qui nous montrent cette fois comment les feuillets de la kaolinite dont je venais de parler, tétraèdre, octaèdre, s'empilent les uns sur les autres. Et on voit qu'il y a plusieurs façons d'empiler le même feuillet. Soit ils sont empilés tous dans le même ordre, soit ils sont empilés avec un comme ça et l'autre qui tourne. C'est les miracles de la symétrie cristalline. C'est ce qu'on appelle des polytypes. Daniel vous exposera tout à l'heure, si toutefois vous êtes assez courageux pour résister, que dans la prospection pétrolière ou la recherche de l'uranium, on utilise beaucoup ces différents modes d'empilement des feuillets qui sont pourtant identiques. Ces deux minéraux, kaolinite ou dikite, ont exactement la même composition chimique. Ils ne se forment pas du tout dans les mêmes conditions géologiques. Pire que ça, puisque ce sont des cristaux en feuillet, ils ont une grande tolérance aux défauts cristallins et donc peuvent s'empiler des feuillets qui, cette fois, n'ont pas la même composition. Au lieu d'avoir toujours le même feuillet qui se superpose à lui-même, soit en tournant, soit en se déplaçant, cette fois, on a des feuillets différents. Voilà, vous reconnaissez ici un feuillet de chlorite, et là, vous avez un feuillet qui ressemble à celui de la montmorillonite. C'est un minéral, vous avez la photo en haute résolution à côté, qui a été étudié par quelqu'un de remarquable, Beaufort. Tu me paieras après à la sortie. C'est un minéral qui est en fait un interstratifié. Ce n'est plus un polytype, c'est un interstratifié. Donc, une infinie variété dans les espèces d'argile. Alors, un cristal, c'est quoi ? J'espère que je vais faire marcher mon truc. Vous avez tous l'impression qu'un cristal, c'est une pierre, et qu'une pierre, c'est inerte. Ça s'oppose au vivant. Eh bien, un cristal, c'est pas du tout inerte. Eh oui, je savais que ça vous amuserait. Ça vibre. Ça vibre à la température, dès qu'on n'est pas au zéro absolu, ça vibre. Et ces vibrations servent à certains d'entre nous qui ont des déviances particulières d'utiliser ces vibrations par la spectrométrie infrarouge. Bon. Un cristal, ça naît. Ça commence par être petit. Moi-même, je n'ai pas toujours été gros. Je suis né petit. Eh bien, les cristaux d'argile, c'est la même chose. Voilà un cristal d'argile, c'est du talc, qui se trouve inclus dans un autre silicate, qui est un pyroxène, et ça, ça se fabrique dans le manteau. Après être né, il grandit. Et il grandit en appliquant le principe d'économie. La nature est extrêmement avare. Contrairement à nous qui gaspillons beaucoup, elle ne gaspille pas. Quand elle peut faire grandir un cristal en consommant le moins d'énergie possible, elle utilise ce processus-là. Il y a plusieurs façons de faire grandir un cristal, mais elle le fait grandir par une dislocation qui fait grandir toujours le même feuillet. C'est-à-dire, l'argile est composée de N feuillets, mais c'est le même qui grandit en hélice. Et ça, ça ne coûte pas cher en énergie. Et ça, cette image-là, c'est la surface d'un cristal de kaolinite qui a été décoré par du platine. Il n'y a que les Russes pour faire ça. Un cristal, c'est comme un être. Hein, c'est sensible, le cristal. Ça peut avoir des blessures. Et voilà une blessure, oh merde, qui est en fait due à l'irradiation d'un cristal. Vous avez vu le début, là, la grille est parfaite. La petite balle bleue qui vient de le traverser, c'est une particule alpha qui est liée à la désintégration radioactive. Et donc, quand une particule alpha traverse un cristal, elle fait de sérieux dégâts. Ces dégâts restent. Les blessures ne se cicatrisent pas toutes, et pas toutes à la même vitesse, et pas toutes dans les mêmes conditions. Donc on peut regarder les blessures d'un cristal, ça nous raconte sa vie. Et là encore, Daniel vous expliquera à quoi ça sert pour chercher de l'uranium. Et puis alors, un cristal disparaît. Mesdames et messieurs, il n'y a rien d'éternel, même pas les cristaux. La Terre aussi finira par être mangée par le Soleil. Et j'ai bien peur que nous n'ayons pas forcément une seconde chance après. Enfin, ça c'est que mon opinion à moi. Donc un cristal doit disparaître. Et en réalité, c'est cette longue vie depuis sa naissance, ses blessures, sa croissance et sa disparition qui fait l'objet des études des labos de géologie. C'est pour ça que vous payez des impôts. Et c'est pour ça que je suis bien payé pour ce que je fais. Alors, il y a quand même une question particulière aux argiles qui les différencie des belles améthystes que vous pouvez acheter. Les belles améthystes sont magnifiques. Elles font plusieurs centimètres. Les cristaux sont superbes. Une argile, c'est toujours petit. On dit qu'une argile est formidablement grande quand elle a atteint 50 microns. Bon. Donc, c'est toujours petit. Pourquoi est-ce que c'est petit? La réponse vient toute seule. Parce que ça ne peut pas grandir. Jusque-là, vous me suivez. Et mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas grandir? Eh bien, parce que les argiles violent la définition d'un cristal idéal. Un cristal idéal, c'est la répétition dans les trois directions de l'espace, de la même façon, avec les mêmes distances et les mêmes angles, des atomes. Les argiles sont bourrées de défauts. Les répétitions dans les directions de l'espace, dans les trois directions de l'espace, sont toujours perturbées. Soit par des flexures, soit par des déplacements dans le plan, soit par des changements de composition qui font que les mailles cristallines sont toujours un peu tordues. Bref, il y a de multiples raisons pour que les argiles soient bourrées de défauts. Pour faire grandir un individu bourré de défauts, pas facile. Tous ceux qui ont des enfants peuvent savoir de quoi je parle. Vous ne me suivez pas, là. Et pourtant, dans le domaine des cristaux, plus vous êtes bourré de défauts, plus vous êtes réactif. J'ai essayé de persuader ma femme de ça, d'ailleurs. Ça n'a pas davantage marché. Où se forment les argiles? Bien sûr, tout le monde y pense, c'est intuitif, c'est immédiat. Les argiles, ça se forme dans le sol. C'est vrai. Vous allez voir qu'il n'y a pas que là. Mais c'est vrai que la perception la plus courante qu'on ait des argiles, c'est la boue qui tache nos chaussures, c'est-à-dire le sol. Au passage, d'ailleurs, vous avez ici une expérience qui a été tentée dans les Vosges avec des parcelles forestières où on avait coupé à blanc la forêt initiale, puis réensemencé depuis 40 ans en deux espèces, l'épicéa et le douglas. Donc c'est le même sol. La seule chose qui change, c'est les arbres qui poussent dessus. Eh bien, les argiles ne sont pas les mêmes. Peu importe la signification de ce signal, vous voyez que ce signal-là n'est pas identique à celui-ci. Ça veut dire qu'au bout de 40 ans, les argiles ont changé. Les argiles qui sont dans le petit carré jaune. Mieux que ça, maintenant, parce que ma diapo est un peu vieille, on pense même que les argiles changent chaque année. Et on en est presque à dire qu'elle change en fonction de la saison. C'est le garde-manger des plantes qui sont capables, comme en Amazonie, de les fabriquer elles-mêmes pour pouvoir subsister. C'est pour ça que quand on coupe les arbres en Amazonie, c'est une catastrophe parce que le sol sur lequel pousse la forêt... Je vais te permettre, je te promets. Salopard. C'est un physicien.
Il a tout cassé.
Là, je disais que si on coupe la forêt, la forêt amazonienne pousse sur un sol totalement infertile. Donc, seule la forêt construit elle-même son sol, y compris les argiles dedans. Et quand on coupe cette forêt ou qu'on la fait brûler, on détruit cette fine couche qui permettait à la vie de s'épanouir. Et ce qui reste après, c'est quelque chose qui est totalement infertile. C'est irréversible. Pour réinstaller la forêt sur un sol comme ça, il faudra autant de temps qu'il a fallu pour l'installer. Ça s'exprime en millions d'années. Alors, les argiles, il y en a au fond de l'océan, partout, plein. Alors certaines ont des allures tout à fait bizarres, il y en a qui sont comme des tubes spiralés qui grandissent à l'intérieur de cristaux qui sont ceux qui sont les plus abondants sur la Terre. L'olivine, c'est ce qui fait la totalité du manteau terrestre pratiquement, donc c'est le minéral le plus abondant même dans le système solaire. Eh bien, dès qu'il se détruit un peu, il donne ça, ces cristaux particuliers qui appartiennent à la famille des serpentines, qui ont une composition très proche, sauf que ce sont des argiles hydratées. Ça se fabrique dans les laves. On a toujours l'impression que les argiles, c'est quelque chose qui se fabrique à basse température à cause du fait que nous percevons les argiles comme étant produites exclusivement par les sols. Ce n'est pas le cas. Les argiles se fabriquent dans les laves. Quand les laves se refroidissent, dans les derniers stades de refroidissement d'une lave, les gaz qu'elle contient, et particulièrement l'eau, se concentrent dans des tout petits vides et ça dépose des argiles qui ne viennent pas de la destruction des minéraux voisins, mais simplement d'une précipitation directe. Ça fait d'ailleurs des structures tout à fait magnifiques. Vous avez là un phosphate de calcium, identique à celui qui fabrique vos dents, et qui est entouré d'argile. Les météorites. Il y a des argiles partout dans le cosmos, partout. Et vous avez ici l'exemple d'une météorite célèbre, qui est un petit morceau de la Murchison, qui est tombé en 1969 en Australie, avec des tas d'éléments très particuliers. Et ces éléments sont soudés par une zone noire. Dans cette zone noire, vous trouvez des structures lamellaires typiques des argiles. Avec une différence, c'est que c'est des argiles type Big Mac. C'est des sandwichs extraordinaires, où on a une tartine de silicate, du fromage de sulfure ou d'hydroxyde, le jambon de sulfure, et à nouveau un hydroxyde, et encore un silicate, etc. Il se fabrique dans le cosmos à 3 degrés K, c'est-à-dire moins 270 degrés Celsius, une quantité de produits organiques ou minéraux dont on n'a pas fini de faire l'inventaire. Et peut-être que la vie vient effectivement de ces composés. Alors de même, dans les comètes, alors voilà les Américains qui ont fait il y a quelques années une mission qui s'appelle Deep Impact, qui est allée percuter une comète, qui est la comète Temple 1. Voilà la sonde qui a largué son projectile en cuivre. Son projectile est en chemin sur la comète. Vous allez voir. Paf ! Les Américains adorent bombarder, tout le monde le sait. Voilà le jet de poussière qui sort de l'impact. Et voilà le spectromètre de la sonde qui analyse ces poussières. Devinez ce qu'on a trouvé ? Des argiles, bien sûr, sur les comètes. Et depuis d'ailleurs cette mission, les Américains en ont lancé une autre sur exactement le même type, qui est dirigée, elle a frôlé la comète, je ne sais plus comment son nom, Hartley, le 10 novembre dernier, et elle va la bombarder bientôt là. Formidable. Les Européens, d'ailleurs, nous avons, nous, une mission qui est en route, qui a été lancée en 2004, qui arrivera en 2014, qui est la mission Rosetta, qui va atterrir. C'est la différence avec les Américains. Nous ne bombardons pas, nous nous posons, nous, en douceur, sur une comète, la Gerasimov, je ne sais plus comment. Ça, les comètes portent le nom de ceux qui les ont vus les premiers. Et de cette sonde qui va se poser, sortira un petit engin qui va faire une carotte et qui va analyser la carotte. Bon, bref, fabuleux. Et l'origine du monde, alors, est-ce que je vais finir par traiter ce sujet dont nous sommes qu'au tout début, ça c'est l'introduction. D'où vient la vie? Alors Darwin, toujours lui, c'est un visionnaire extraordinaire. Dans une lettre adressée à un de ses collègues en 1871, a dit que la vie, probablement, pour apparaître, avait certainement fait ses premiers pas dans une petite mare chaude, il y a, disait-il, des millions d'années. En fait, ce sont des milliards d'années. Mais l'idée de la petite mare chaude sous-tend une philosophie particulière qui est que la vie est tellement complexe, vous êtes tellement formidables, même les physiciens, que pour arriver à faire ces miracles de la nature, là j'écarte les physiciens, il faut un miracle. C'est-à-dire qu'il faut une situation tout à fait particulière, unique, pour que ça puisse se faire dans un endroit extraordinaire. Ma philosophie est opposée. Je pense que pour vaincre une probabilité extrêmement faible, il faut une philosophie shadockienne, c'est-à-dire une énorme quantité d'essais. Les Shadocks avaient une chance sur 1 million que leur fusée parte. Ils ont fait 1 million d'essais. Ça ne veut pas dire que leur fusée part pour autant, d'ailleurs. Bon. Et qu'est-ce qui pouvait fabriquer ce réacteur chimique qui puisse faire répéter des milliards de fois la même réaction? Eh bien, ce sont les sites argileux, comme celui que vous avez là, qui apparaissent sur les laves basaltiques qui couvraient la Terre il y a 4 milliards 400 millions d'années. La couverture de la Terre devait être faite à peu près comme ça, avec des empilements de lave, qui devaient avoir, point par point, des petites zones comme ça, pleines d'argile, ce qui fait que la Terre était elle-même un énorme réacteur chimique, avec des milliasses de sites réactifs, pendant des millions d'années. Ça fait une probabilité qui devient une certitude. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais c'est de la rêverie. C'est pour ça que Daniel va d'ailleurs prendre la suite, pour qu'on retombe avec les pieds sur terre. Mais ceci dit, si c'est vrai, il faudrait pouvoir le prouver. Comment le prouver? Eh bien, on a une piste. Sur Mars, il y a des argiles. Voilà une météorite martienne. On en a une trentaine sur la Terre de météorites martiennes, dont certaines d'ailleurs sont tombées en France, Chassigny. Et dans l'une d'elles, on trouve des argiles qui ressemblent bougrement aux argiles qu'on trouve dans les basaltes. Ça, c'est un basalte qui vient de Mururoa, ne me demandez pas comment. Et ça, c'est donc la météorite martienne. Convergence étonnante. Donc, si on veut savoir si Darwin ou Meunier, lequel des deux a raison pour l'origine de la vie, je vous ai dit que c'était prétentieux, hein, c'est le mot. Faut aller sur Mars. Pourquoi? Parce que Mars, c'est comme était la Terre il y a 4 milliards d'années. Cette planète n'a pas évolué depuis ce temps-là. Donc elle est encore couverte de sa couverture initiale de basalte. Et il y a deux missions qui tournent autour. En ce moment, il y a une mission américaine et une mission européenne. Les deux munis de spectromètres infrarouges qui analysent la surface. Et on trouve sur de grandes surfaces des argiles qui ressemblent étonnamment aux argiles des basaltes de Mururoa. Donc, s'il y a une réponse à la question d'où vient la vie, elle doit être sur Mars. Et il faut y aller, parce qu'en plus, c'est extraordinaire. Voilà un paysage de Mars qui vous représente ici la couverture basaltique ancienne avec les méandres d'un fleuve maintenant asséché, bien sûr, son delta de sédiments qui s'est déposé, et en vert, c'est en vert, oui, vous avez les argiles. Donc, il faut y aller. Voilà. Donc, vous avez compris, bien sûr, que les argiles, c'est une histoire d'artistes, de marchands, d'ingénieurs, de scientifiques. Et alors, si les argiles sont si intéressantes, qu'en faisons-nous? Et particulièrement, comment l'université de Poitiers se situe-t-elle aux yeux du monde dans cette discipline? Eh bien, l'université fait son boulot. Elle éduque. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a deux formations, vous avez entendu, vous, au fond, là? Il y a deux formations spécifiques sur les argiles, une qui est nationale et une qui est internationale. Et ça fait partie, c'est les Master Erasmus Mundus, ça fait partie de ce qui contribue au rayonnement de Poitiers. Et puis, elle fait son boulot de fabriquer de la connaissance. Et donc, dans les argiles, on peut même trouver des machins comme ça. Ce fossile a fait reculer, dans l'horloge de l'apparition de la vie, la première apparition des organismes pluricellulaires macroscopiques de plus d'un milliard et demi d'années. Mais les argiles, ça ne s'arrête pas à ça. Ça fait contribuer chimistes, pas physiciens toujours, hein, on a du mal avec les physiciens, mais géologues, chimistes, ça marche main dans la main pour l'origine de la vie, pour le traitement de l'eau, pour la catalyse, pour les nanomatériaux. Il y a tout un monde qui tourne autour de l'argile. Mesdames et messieurs, l'avenir de l'argile, c'est beau. La preuve. Je vous remercie. Il ne faut jamais oser en poser.
Si vous avez des questions, des commentaires.
Tu m'as reconnu.
Bonjour, merci. Vous savez le nom de la statuette que vous avez présentée en premier? Sinon, j'ai d'autres questions. Mais je ne veux pas monopoliser. Les basales. Ah, voilà. Vénus de Tony Vestonche. C'est Tchécoslovaquie. Merci.
Je voudrais l'avoir parce qu'en plus, c'est un bel objet.
Très impressionnant, oui. Oui, les basales de Mururoa, c'était avant ou après les essais?
Non, les basales de Mururoa qu'on a regardées sont très loin. On n'est pas courageux, hein, on n'est pas allé se foutre là où il y avait les...
Mais ça aurait pu être avant.
Ce sont des, bien entendu, les argiles datent de la mise en place de l'atoll.
D'accord.
Et l'atoll s'est mis en place, si je ne m'abuse, c'est 30 ou 35 millions d'années.
D'accord. Voilà.
Donc ça n'a rien à voir avec l'activité...
La bombe modifiée.
Pardon.
Et ça n'a, les essais atomiques n'ont pas mis de modifier la composition. Non. Ça n'a pas blessé les argiles.
Non, non, parce que si on en a fait des essais dans des roches silicatées, c'est pour des tas de raisons. D'abord parce que c'était loin de la France, pas forcément loin des autres populations, mais loin de chez nous, quoi. Bon, mais les roches silicatées sont de très mauvais conducteurs de la chaleur. Et ce sont des isolants très forts, ce qui fait que l'effet thermique dans une explosion atomique, il y a trois effets nocifs. Il y a l'effet thermique, il y a le choc qui fait un effet mécanique, et puis il y a évidemment, ce que tout le monde imagine, la radioactivité. Mais tout ça, c'est confiné, en fait. C'est confiné à cause des propriétés particulières de ces roches silicatées. Alors, je ne sais pas à quelle distance se trouvait ce forage particulier d'où nous avons tiré nos échantillons des zones de tir, mais ce n'était pas du tout les zones de tir. Les zones de tir, d'abord, les géologues ordinaires n'y ont pas accès.
C'était souterrain.
Oui, ben c'est souterrain, bien sûr. Bien sûr. Les jeunes gens, là... Hein. Vous ne savez pas quoi dire. Hein.
C'était parfait.
Les examens sont passés, ça ne sert à rien. C'est...
Bonjour.
Bien, on va écouter monsieur. Ah, pardon.
Voilà. Autrement, on va passer à la deuxième intervention. Une petite question.
D'accord, merci. Moi, je suis herboriste et je manipule l'argile pour soigner les gens, en interne et en externe. Essentiellement l'argile verte, donc Lilith plutôt. Lilith. Ça vous intéresse pas de l'étudier pour la médecine à la fin dans votre avant-dernière diapo là, les nanomatériaux, traitement de l'eau.
Dans ma dernière diapo, ce qui m'intéresserait c'est plus le support que l'argile elle-même.
Support, c'est-à-dire.
Pardonnez-moi, non, c'est une très mauvaise plaisanterie.
Le corps humain.
Cette jeune femme était magnifique, oui. Bon, bref, non. Mais... Laissez divaguer un vieux prof. Hein, c'est, voilà.
Bah écoutez, mais je suis très sérieuse. Hein,
Bon, bien sûr.
Parce que ça fait depuis le néolithique que les animaux et les hommes se soignent avec ce produit.
Dans le master international, dans l'IMAX, nous avons un médecin. Et il y a des formations sur l'application médicale de la médecine qui se font au Portugal. Hein. Donc si, ça c'est très sérieux. Les argiles. Enfin, moi, j'ai la tête sur Mars, mais bon. Pour descendre sur Terre aussi,
oui,
dans certains
sens. J'ai les pieds dans la bouillasse.
Ça peut. Les argiles sont maintenant étudiées pour vectoriser des médicaments, c'est-à-dire pour les faire absorber sur les surfaces des argiles les molécules actives qui vont traiter votre cancer de l'estomac. De manière à ce que vous n'absorbiez pas des doses. Un médicament, c'est toujours un poison. Ce qui fait que ce n'est pas un poison, c'est la dose juste qu'on emploie. Donc, pour éviter justement les surexpositions à des doses majeures, il faut vectoriser, c'est-à-dire emmener la molécule là où on en a besoin. Et les argiles, comme on n'en meurt pas en en mangeant, ça peut être des vecteurs intéressants.
Vous avez envoyé quelqu'un ou entendu parler du colloque en novembre en Tunisie sur les argiles?
Vous savez, des colloques sur les argiles, il y en a...
Il y en a pas mal.
Il y en a pas mal.
Ouais. Et l'homme et l'argile, ça vous dit quelque chose comme réseau? C'est un réseau international? Ça vous dit rien?
Oui, vous savez, non, je connais.
Non.
Bon, voilà. Non, désolé.
Non, mais je vous en prie. Parce que si ça vous intéresse, je
vais. Bien sûr. Tout utilisateur
merci.
D'argile ne peut être qu'intéressant. Ouais, voilà.
Voilà. Merci pour ces compléments d'information. Donc, tout ce monde va aller voir l'homme et l'argile. Merci, monsieur Meunier. Et puis, donc, monsieur. Ah, une autre petite question. Pardon. J'essaie d'aller jusqu'à là tranquillement.
Je ne sais pas si ça présente de l'intérêt dans le cas que vous avez dit, mais enfin, je veux savoir si l'argile superficielle, enfin, qui apparaît à la surface de la Terre, réagit de façon différente en fonction des climats. Enfin, le phénomène d'érosion et le phénomène d'évolution de l'argile en fonction des climats terrestres. Enfin.
Alors, il y a une répartition mondiale des espèces d'argile, c'est vrai. Je m'explique. Les illites et les chlorites, c'est-à-dire des minéraux dont je vous ai montré la structure, sont plutôt septentrionaux. C'est dans les zones, le Canada, la Grande-Bretagne, la Finlande. Bon, en dessous, on a les zones où on peut avoir déjà des argiles gonflantes, style montmorillonite. La preuve, ça c'est chez nous. Et quand on est entre les tropiques, on a plutôt une dominance de la kaolinite. Et ça vient, c'est une des propriétés, mais pas la seule, du climat, qui est l'abondance des pluies, en fait. C'est ça qui... l'abondance des pluies et la température. C'est ça qui fait que ces minéraux se fabriquent ou se défont. Et donc, le paysage qu'on a de la Terre, qui est hérité, la configuration des continents est connue, est établie pratiquement... à la largeur de l'Atlantique près depuis une trentaine de millions d'années. Donc on sait que cette répartition-là est grossièrement climatique. Oui. Alors, est-ce que ça a une influence sur le reste? Bien sûr. La kaolinite est infertile. Les paysages, je vous parlais de l'Amazonie, l'Amazonie repose, la forêt amazonienne repose sur un sol très épais de kaolinite, qui est totalement impropre à faire pousser des plantes. Et les Indiens, qu'on a fusillés d'ailleurs en allant les découvrir avec les conquistadors, il y avait une civilisation très florissante en Amazonie, de plusieurs centaines de milliers d'Indiens, qui sont morts de maladie. C'est pas, il y avait 3 ou 4 conquistadors qui sont venus et qui les ont complètement contaminés. Mais eux étaient capables de faire vivre ces populations énormes, plusieurs milliers d'habitants sur certains sites, sur des sols qui étaient totalement infertiles, en les rendant fertiles par du charbon de bois qui servait de zéolite. Enfin, avec les canaux du charbon de bois, il y avait les capacités d'échange d'un sol. Et ces gens-là, on retrouve leur jardin d'ailleurs. Et ça a donné, alors je ne sais pas si ça intéresse l'homme et l'argile, mais il y a aussi une association qui s'appelle Terra Preta, qui est la terre noire, et qui est étudiée depuis très très longtemps par des tas de gens, mais très sérieusement, parce que c'est une façon de rendre fertile ce qui n'est pas. Si vous ne m'arrêtez pas, j'y suis encore.
Donc, monsieur Beaufort.
C'est toi l'opérateur. Hein.
Ah ben ça, hein, mon vieux, là, t'es dans mes mains. Tac.
Ah, c'est pas bon.
Bon, ça c'est sûr.
Celui-là ? Oui, c'est bon, voilà. Bien, donc je vais prendre le relais de mon collègue, mais en traitant un aspect maintenant qui est très spécifique de l'utilisation des argiles et puis peut-être même un petit peu de la connaissance de leurs propriétés, même beaucoup, vous allez le voir. En fait, effectivement, les argiles, bon, il y a une expo ici, vous allez découvrir, vous l'avez peut-être déjà découvert, les applications sont assez multiples et assez phénoménales, hein, que ce soit dans le développement des nouveaux matériaux, la connaissance un peu de nos civilisations, de la façon dont on a pu modeler effectivement notre environnement avec ces matériaux-là. Il y a un point également très important où les argiles ont un rôle, je dirais, discret, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais extrêmement important d'un point de vue économique. C'est tout ce qui a trait à, je dirais, à nos ressources minérales. Et on sait très bien que dans nos ressources minérales, on puise beaucoup de choses qui servent à notre développement, et en particulier notre énergie. Et si je vais vous parler aujourd'hui des argiles, je vais surtout vous parler d'un des aspects des argiles qui a été bien introduit par Alain avant moi, c'est le cristal, c'est-à-dire le cristal d'argile a cette capacité de nous apporter énormément d'informations sur un milieu géologique qui a une taille inimaginable par rapport à la taille du cristal. On a une notion maintenant de la taille des cristaux d'argile, la taille des systèmes géologiques. Ce ne sont plus des angströms, ce ne sont plus des centimètres, ce ne sont plus des mètres, ce sont souvent des centaines, voire des milliers de kilomètres. Comment peut-on tirer une information dans un cristal qui fait quelques centaines d'angströms, quelques milliers d'angströms, et pouvoir les appliquer dans un système géologique dans lequel nous sommes censés puiser nos ressources en énergie, les énergies fossiles, les énergies renouvelables, pour une part, et peut-être d'autres formes d'énergie que nous n'utilisons pas actuellement. Donc, je vais essayer de vous faire un bref, je dirais un petit peu, on va repositionner la problématique argile dans le système sur lequel nous vivons, le système Terre, puisqu'on a besoin de cette dimension. Et puis une fois que cette dimension sera un peu mieux cernée, je vais vous montrer comment, effectivement, par l'utilisation des propriétés du cristal, on est capable de répondre à des enjeux extrêmement importants concernant notre approvisionnement en énergie, que ce soit du côté du pétrole, quand je dis pétrole, c'est pétrole-gaz, bien entendu, de l'uranium, de la géothermie, je pourrais varier à l'infini. Je vais prendre ces 3 aspects. En fait, ce qui va me guider, c'est un peu plus les propriétés du cristal, et on va voir comment un petit peu on peut cerner cet aspect-là. Et là, je suis en total désaccord avec mon collègue Alain Meunier. Moi, j'ai beaucoup besoin de la physique, et je vais m'appuyer lourdement sur la physique, sans négliger la chimie, mais quand même. Voilà. Donc, on l'a compris, les argiles sont présentes un peu partout. Eh bien, dans le système Terre, les argiles, si on veut comprendre où trouver des argiles, c'est relativement simple. Si vous cherchez où est passée l'eau dans le système Terre, eh bien, vous ne trouvez probablement plus l'eau parce qu'elle est passée, mais les argiles sont encore là. Les argiles, c'est tout simplement le produit de l'interaction entre l'eau et les roches dans toute la partie superficielle de la Terre. Ça a commencé au tout début de la Terre, et évidemment, ça a commencé par le magmatisme, par les magmas dont on a parlé, donc le volcanisme qui vous apporte à la fois l'eau, la chaleur, et qui arrive à la surface de la Terre, donc qui réunit les conditions qui vont nous permettre de former ces minéraux argileux. Et puis, les argiles, elles ont un cycle. Le cycle des argiles, le voilà très simplifié, mais on voit que les argiles, c'est toute l'histoire de la croûte superficielle de la Terre, au moins, on va dire, les 10 premiers kilomètres. Donc, vous voyez que c'est quand même très important. Les argiles, ce n'est pas que l'affaire de la surface. Ça concerne un domaine très vaste. Et dans ce domaine, je vais peut-être prendre ça, ça fasse, voilà. Dans ce domaine, eh bien, si je pars de mon volcanisme ici, vous voyez qu'en fait, je vais trouver ça dans tout l'environnement de ces volcans, partout où j'ai des roches très chaudes, des magmas qui vont venir réchauffer le milieu, qui vont créer une énergie thermique qui, en présence de l'eau, va fortement agresser la roche environnante, quelle que soit sa nature, et générer ces minéraux argileux. Si je suis à pression atmosphérique, je vais avoir tous les phénomènes d'érosion qui vont conditionner la formation d'argile. Bien entendu, si je suis un peu plus loin, dans tout l'environnement des sols, on l'a déjà dit, les argiles vont se former. Et puis, la surface de la Terre est vivante, très active, très dynamique, soumise à une érosion constante. Et cette érosion, c'est un vecteur de transport d'une partie très très importante de ces matériaux argileux qui vont s'accumuler dans les bassins, dans les mers, dans les océans, dans les lacs. Et tout ça, au cours du temps, ça s'enfouit. Et effectivement, il va falloir atteindre des profondeurs considérables pour que ces argiles, non pas disparaissent, mais se transforment en d'autres espèces minérales. Donc voilà, très rapidement présenté, le cycle qui concerne les argiles. Ensuite, ces espèces minérales, par le réchauffement, peuvent arriver à la fusion et vous réinjecter tout cela par le volcanisme à la surface de la Terre et vous pouvez recycler ça un certain nombre de fois. Ce cycle des argiles est indissociable du cycle de l'eau. Par conséquent, effectivement, tout ce qui sera lié au cycle de l'eau sera tracé d'une certaine manière par les argiles, notamment le transport des métaux, le transport de toutes les substances qui vont nous servir, effectivement, pour notre approvisionnement et en particulier notre approvisionnement énergétique. Le pétrole, le gaz, l'uranium, la géothermie, ça se trouve dans cet environnement-là. Donc c'est un petit peu tout cela que nous allons visiter. Alors, avant de visiter, on va faire un petit peu, on va voir un peu comment ça marche, quoi, en gros. Comment ça marche ? Eh bien, pour fabriquer des argiles, le principe, il est simple, à une petite échelle. Eh bien, effectivement, en présence d'eau, et dans certaines conditions de pression et de température, mais qu'on peut varier de manière considérable dans le système Terre, eh bien, un minéral préexistant de la roche va réagir avec cette eau. Cette eau, en fait, c'est une solution. Dans cette eau, il y a déjà des solutés. Et vous allez avoir des échanges de cations et d'anions qui font que ce minéral primaire va se dissoudre. Vous avez ici une image d'un feldspath, par exemple, qui est en train de s'altérer et qui a subi une dissolution importante. Ces solutés vont être transportées par la solution qui se déplace dans les roches et qui va arriver dans un environnement où les nouvelles conditions lui permettent cette fois de précipiter de la matière. Et cette matière, ce sont des minéraux argileux. Voilà le principe très simple, dissolution, transport, puis précipitation sous forme de croissance cristalline. Ça, c'est le principe de base. Ça peut se faire à des échelles très courtes, sur quelques centaines de microns, quelques millimètres. Ça peut se faire sur des milliers de kilomètres. Comment fabrique-t-on un gisement maintenant ? Et on va voir le lien entre argile et gisement. Pour fabriquer un gisement, c'est la même chose, il faut de l'eau, et il faut de l'eau qui transporte des solutés. Et parmi ces solutés, on va avoir les éléments chimiques qui sont susceptibles de s'accumuler pour fabriquer ce gisement. Alors voilà, un petit schéma très simpliste, mais qui a au moins un mérite, la dissolution dont je vous ai parlé tout à l'heure, le transport dont on a parlé, et la précipitation. Donc le minerai, il est là, d'ailleurs la preuve, vous voyez la carrière est là, effectivement. Le transport réactif, c'est tout ce qui a été transporté par les solutions dans les discontinuités de la Terre, quelle que soit sa profondeur. La solution, il y a longtemps qu'elle n'est plus là, mais par contre, que vous soyez dans les zones de dissolution, dans les zones de transport ou dans les zones de précipitation, vous trouvez des minéraux argileux. Et argile 1, ce n'est pas argile 2, et argile 2, ce n'est pas argile 3. Tous ces minéraux ont des propriétés distinctes. Donc là, déjà, on voit un petit peu que finalement, si on est capable de connaître les propriétés de ces minéraux, il y a de grandes chances qu'on arrive à comprendre eh bien, quel est le mode de formation de ce gisement, quelle est l'amplitude des échanges et éventuellement quelles sont toutes les conditions physico-chimiques qui ont permis de réaliser cette accumulation. Donc si je résume un peu ce que j'ai dit, l'argile est née de l'interaction aux roches, souvent c'est de l'altération quand on est à la surface de la Terre. Bon, puis cette argile, le système Terre c'est un système vivant. J'ai l'habitude de dire qu'à la surface, dans la Terre, quand on regarde l'histoire de la Terre, on n'a jamais resservi les plats. La Terre, c'est un système qui n'est pas en équilibre, on est en déséquilibre constant, on est métastable, elle évolue au cours du temps, donc les choses se ressemblent, mais ce ne sont jamais exactement les mêmes choses. Par conséquent, les argiles suivent ce cycle, et au fur et à mesure de l'histoire de la Terre, elles changent. Elles changent en fonction des conditions physico-chimiques, par exemple, ça peut être symbolisé par la profondeur, mais elles changent aussi en fonction du temps. Ça, c'est la dimension de la géologie. C'est un petit peu ce qui nous sépare des autres disciplines des sciences dites dures, c'est que nous, on est obligé de composer avec le temps et dans une gamme tout aussi considérable que nos échelles de grandeur, de distance. Effectivement, sans le temps, on ne comprend rien. Et donc, vous voyez que des minéraux argileux qui, dans un même système, se sont transformés et on voit tout de suite qu'il y a des changements de forme, de texture, de taille, etc., considérables. Donc ça, c'est... je dirais un petit peu le fondement de ce qui va nous amener à utiliser ces argiles. Bon, puisque ces argiles changent, peut-on considérer qu'effectivement les argiles, puisqu'elles changent, elles perdent la mémoire du temps passé? Ça, c'est une question importante et les géologues s'y sont beaucoup frottés. Bon, effectivement, si elles perdent la mémoire du temps, elles sont de faible utilité en termes de reconstitution de l'histoire passée de la Terre. Fort heureusement, ce n'est pas le cas, et j'espère bien vous en convaincre. Effectivement, les argiles conservent un héritage des processus géologiques qui ont amené, la roche, la roche à se transformer depuis sa formation. Ce problème, c'est que ce message, il est crypté et il n'est pas directement lisible. Il faut aller le chercher, et nous, on va le chercher dans le cristal, quelle que soit la nature de l'argile. Alors, ce cristal, comme l'a dit Alain et vous l'a un petit peu défini, un cristal, ça a beaucoup de propriétés, et parmi les propriétés importantes qui nous intéressent, il y a la texture, ça c'est la taille, c'est la forme un petit peu du cristal, sa morphologie, la structure, donc ça c'est la façon dont sont organisés effectivement les plans atomiques dans ces cristaux, et la cristallochimie, c'est comment se positionnent ces différents types d'atomes, donc c'est de la chimie mise dans le cristal. Effectivement, pour une même structure, on n'a pas forcément les mêmes atomes. Et on va combiner tout ça pour essayer d'en tirer une information exploitable. Alors, je vais commencer par le problème argile et pétrole. Alors, argile et pétrole, je vous l'ai mis, c'est un couple fusionnel, et c'est vrai, c'est indissociable. Depuis le début de l'histoire du pétrole jusqu'à la fin, on a des argiles. Même quand nous le brûlons, c'est-à-dire par l'activité anthropique, la plupart du temps, on utilise des catalyseurs, et souvent, ils sont argileux. Donc, effectivement, on a beaucoup de peine à dissocier ces deux acteurs. Alors, pourquoi, plus concrètement, l'industrie pétrolière s'intéresse-t-elle aux argiles? Pour ces deux aspects qui sont la base de son métier. L'exploration, autrement dit, trouver les gisements et les nouveaux gisements, d'une part, et d'autre part, la production. Récupérer, bien entendu, le gaz ou les hydrocarbures qui sont dans ces gisements. Beaucoup de gisements importants sont connus, mais ne sont pas exploités parce que nous ne sommes pas capables de récupérer ce qu'ils contiennent. Un gisement de pétrole qui produit de manière optimale ne nous livre que la moitié du pétrole qu'il contient. Le reste ne peut pas être récupéré par les technologies que nous possédons actuellement. Peut-être qu'un jour nous pourrons, mais pour l'instant ce n'est pas possible. Il y a 20 ans, 25 ans, ce n'était pas 50%, nous en étions encore qu'à 35% de récupération. Donc vous voyez un petit peu la vitesse à laquelle évoluent les choses. Bon, rapidement, comment fait-on du pétrole? Pour faire du pétrole, il faut deux acteurs, je dirais. Il faut effectivement un milieu marin dans lequel du phytoplancton se développe abondamment, meurt, vient s'accumuler et se mélange avec des apports qui viennent des continents, des apports terrigènes qui sont essentiellement constitués par des minéraux argileux. Autrement dit, au fond des océans s'accumulent des sédiments constitués de matières organiques qui résultent d'êtres vivants morts, phytoplancton, et d'argile qui se mélange. Et tout ça, bien entendu, ne se fait pas en milieu totalement inerte. Nous avons tout un milieu bactérien qui se développe dans ce contexte-là. Les bactéries vont venir utiliser la matière vivante morte, tout simplement pour en utiliser l'oxygène et l'azote dont elles ont besoin pour se développer. Et elles vont laisser ce qui ne les intéresse pas, le carbone et l'hydrogène, qui va, au fur et à mesure de l'enfouissement des sédiments, si les conditions sont satisfaisantes, se transformer progressivement en pétrole puis en gaz. Voilà, hein, je dirais, assez simplement décrit le phénomène. Bon, si maintenant je symbolise cette transformation, alors évidemment, la transformation de la matière organique initiale en huile, donc en pétrole ou en gaz, ça se fait sur des durées de temps géologiques parfois considérables, des dizaines de millions d'années, parfois même des centaines de millions d'années, qu'il faut pour arriver à ces stades-là. Puis même, on peut dépasser ce stade, et trop loin dit, ce que nous avons formé ici, le reconsommer ou le détruire et le rendre en tout cas inutilisable par rapport à nos besoins en énergie. L'histoire ne s'arrête pas là. Tant que vous êtes dans tout ce stade initial, la matière organique ici n'est absolument pas liquide, elle est solide, et ce n'est que dans des stades un peu plus poussés qu'elle devient liquide ou gazeuse. À ce stade-là, cette matière quitte le milieu géologique dans lequel elle s'est formée, et elle va se déplacer dans le système géologique au gré des discontinuités, donc de la porosité, de la perméabilité des roches, pour aller s'accumuler dans des roches beaucoup plus poreuses et qui sont dans des contextes géologiques qui permettent bien tout simplement de piéger hein, ces liquides ou ces gaz à cause de leur différentiel de densité. Donc ça peut être les anticlinaux hein, si chers aux géologues, ça peut être des structures de failles, des structures diapyriques, etc. etc. Mais parallèlement à cette évolution de la matière organique, ces milieux poreux suivent également une transformation de la matière qu'ils contiennent, et là nous avons les argiles. Nous avions des argiles ici avec la matière organique. Cette matière organique nous donne de l'huile et du gaz qui vont se piéger dans des roches qui elles-mêmes voient une évolution dans la matière argileuse qu'elles contiennent. Alors évidemment, ces argiles, on va les utiliser pour obtenir plein d'informations. Alors, je vais utiliser un terme ici qui est ce terme de réservoir. Le réservoir, hein, c'est donc ces roches poreuses et perméables dans lesquelles les hydrocarbures, le gaz, mais également l'eau vont venir se piéger et en quantité considérable. Alors voici par exemple une utilisation hein, dans les réservoirs gréseux, qui sont des réservoirs très importants pour la production pétrolière. Et bien dans ces réservoirs gréseux, le minéral argileux qui se forme très tôt et qui se transforme pendant tout l'enfouissement, eh bien, c'est la kaolinite dont on a parlé tout à l'heure. Et cette kaolinite, elle se transforme pour devenir un nouveau minéral qui s'appelle la dikite, mais qui a exactement la même composition que la kaolinite. En fait, la dikite, c'est un polytype, pour reprendre le terme présenté tout à l'heure par Alain, c'est un polytype de la kaolinite et qui amène donc une configuration tout à fait différente, configuration que l'on peut déterminer par la spectrométrie infrarouge, en regardant effectivement la zone de vibration ici des hydroxyles. Voici ici, à faible profondeur, bien un spectre qui est tout à fait caractéristique d'une kaolinite. Quand je dis faible profondeur, vous voyez, c'est 670 mètres d'enfouissement. À grande profondeur, 5 km d'enfouissement. Là, j'ai un spectre tout à fait, je dirais, de référence de la dikite. Et on voit qu'entre les deux, eh bien, on a des spectres intermédiaires entre ces deux types de structures. Et ces spectres intermédiaires, en fait, c'est simplement une sommation des proportions relatives qui changent au cours de l'enfouissement, donc du temps, puisque c'est des sédiments qui s'accumulent, de kaolinite et de dikite. Le résultat, c'est qu'avec cette méthode-là, non seulement on peut identifier quelles sont les phases présentes, mais on est même capable de les quantifier. On sait quelles sont les proportions relatives des deux. Donc on peut mesurer une vitesse d'avancement de cette transformation de la kaolinite en dikite avec l'enfouissement. Mais l'enfouissement en géologie, c'est aussi la température. Donc, vous voyez tout de suite là, l'enfouissement, c'est le temps et la température, c'est temps fois température. En plus, évidemment, c'est une augmentation de pression. Donc, on voit qu'on a beaucoup de paramètres. Et derrière tout ça, eh bien, même si les choses ont évolué, eh bien, les minéraux argileux changent de texture. Et ce changement de texture s'accompagne, bien entendu, d'un changement de structure et de cristallochimie. Donc, ça, c'est une façon relativement simple de pouvoir voir a posteriori, la profondeur à laquelle les sédiments ont été enfouis pendant la diagenèse et d'être capable de savoir si oui ou non, dans ce contexte-là, on a pu former un jour du pétrole ou du gaz. Ça ne nous dit pas s'il est là, mais ça nous dit si, effectivement, à l'échelle du bassin, on a quelques espoirs de trouver ou de ne pas trouver, hein, malheureusement, ces substances économiques. Alors, la question qu'on peut se poser, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens là simplement, on voit bien qu'à 5 km de profondeur, ben, là, j'ai de la dikite, simplement, et je me dis, ben, quand je suis dans ces conditions-là, qu'est-ce qui peut me permettre de savoir que cette dikite-là, son origine, c'est bien une transformation de la kaolinite en dikite ? Eh bien, en fait, il existe une mémoire physique de cette transformation. Cette transformation de la kaolinite en dikite, ça se fait par de la dissolution. La kaolinite se dissout sur certaines de ses faces et puis permet la cristallisation d'un nouveau cristal qui est la dikite, donc qui se développe à partir d'un germe qui généralement, initialement, est constitué, enfin, apparaît sur l'une des autres faces du cristal de kaolinite. Au final, on obtient des cristaux dont les formes ne sont absolument pas comparables aux autres cristaux de dikite que nous connaissons dans le milieu naturel. Ça, c'était une énigme. Et cette énigme, elle a été percée, hein, il n'y a pas très très longtemps, hein, simplement en regardant, tout simplement, eh bien, quelles sont les propriétés cristallographiques de chacune de ces faces des cristaux que nous observons. Alors pour faire ça, hein, il n'y a pas que les rayons X, hein, ou la lumière qui diffracte, les électrons diffractent aussi. Eh bien, on bombarde ces surfaces avec des électrons et on regarde les électrons qui sont rétrodiffusés, mais la diffraction rétrodiffusée nous intéresse. Et cette rétrodiffusion nous permet d'imager les plans atomiques et à partir de là, de retrouver la position de chacune de ces faces. Et particulièrement ici, eh bien, on s'est aperçu que certaines de ces faces, qu'on a ici intitulées 0, 1, 0, hein, de par les indices cristallographiques, sont des faces qui, dans ce cristal, grandissent très vite. Comme elles grandissent vite, elles sont petites. Et celles-ci, normalement, elles sont beaucoup plus développées dans une dikite normale. Pourquoi obtient-on ça ? Eh bien, tout simplement, pour obtenir ça, eh bien, ce n'est pas possible si vous ne faites pas croître ce cristal sur une surface de kaolinite. Et donc, vous allez faire ce que nous appelons une croissance épitaxiale. À partir d'une surface de kaolinite, on va faire grandir un nouveau cristal. Mais évidemment, sa géométrie est un peu imposée par le substrat sur lequel elle se développe. Bien entendu, la kaolinite a totalement disparu. Mais la morphologie du cristal de dikite reste. Tout le reste a disparu, mais on a un héritage de la forme. Un autre point qui, évidemment, là, intéresse beaucoup les pétroliers, c'est bien la compréhension un petit peu de l'histoire de la formation du réservoir. Une fois qu'on a trouvé le pétrole, on aime bien quand même comprendre comment ce pétrole s'est accumulé dans le réservoir. Et bien là, on peut le savoir tout simplement en... Ben, suivant effectivement notre réaction là, d'avancement de cette transformation de kaolinite en dikite, ce qu'on appelle la dikitisation. Et puis, bien, on va regarder comment ça se passe au cours du temps dans ces réservoirs. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a une relation, hein, quand on a un réservoir qui ne contient que de l'eau, il y a une relation tout à fait linéaire entre la taille des pores et la taille des conduits entre ces pores, donc la perméabilité, donc la quantité d'eau qui peut se renouveler, et la vitesse à laquelle la kaolinite se transforme en dikite. Et si vous maintenant vous restez dans un environnement globalement isotherme, ce qui est dans le cas présent, si vous comparez une zone qui n'a jamais vu passer d'hydrocarbures et une zone qui contient des hydrocarbures ici, vous voyez tout de suite que l'avancement de cette réaction est très fortement retardé. Alors là, l'explication elle est relativement simple. Les hydrocarbures, contrairement à l'eau, ne sont pas des solvants pour les minéraux. Par conséquent, quand vous faites rentrer des hydrocarbures dans les pores, ils chassent l'eau d'une part, et d'autre part, ils arrêtent toutes les réactions de transformation. Donc, vous avez un effet retard, mais vous voyez que cet effet retard, il est extrêmement variable suivant les roches que vous considérez. Et bien là, ce que vous êtes en train de regarder là, ben cet effet retard, c'est tout simplement ce qu'on appelle le timing d'invasion du réservoir, c'est-à-dire le moment où sont arrivés les hydrocarbures dans ces réservoirs. Réservoir, ce n'est pas du tout un bidon comme on peut l'imaginer, c'est quelque chose de très hétérogène et les hydrocarbures s'accumulent au cours du temps. Et par conséquent, on peut même trouver des traces de cette invasion tout simplement par ce retard à la réaction qui est généré par les minéraux argileux. Bon, on va quitter un petit peu les kaolinites, on va regarder le problème de l'illitisation. Alors, vous voyez que les minéraux argileux, ça peut être assez esthétique dans certains cas. Voilà des cristaux d'illite. Alors, vous voyez toutes ces petites baguettes là. Donc, ces cristaux-là, eh bien, ils sont esthétiques, certes, mais pour les pétroliers, ce sont des poisons. Dès que vous allez déplacer la phase fluide, qu'elle contienne ou pas des hydrocarbures dans ce milieu-là, eh bien, toutes ces petites fibres vont venir s'accumuler dans les gorges qui existent entre les pores et elles vont interdire le déplacement du fluide. Par conséquent, vous ne récupérez plus rien, même si vous avez effectivement des milliards de barils de pétrole dans votre système. Alors, ces illites, on les utilise comme marqueurs de paléocondition et également, évidemment, on le verra, on va s'intéresser à elles pour les problèmes, ce que l'on appelle de qualité réservoir. Pour un pétrolier, un réservoir de bonne qualité, c'est un réservoir dans lequel on peut produire des hydrocarbures, bien entendu. Voilà quelques images qui vous illustrent les transformations subies par les illites en fonction de la profondeur. Alors vous allez voir que c'est assez comparable à ce qu'on a vu pour les kaolins, sauf que souvent l'illite elle apparaît après les kaolins dans les systèmes, donc elle les remplace. Voilà ici la réaction à 95 degrés, 2500 mètres, vous voyez, 130 degrés, 150 degrés, 200 degrés. Là encore, on a des changements évidents de morphologie des cristaux. Et ces changements évidents de morphologie, bien entendu, vont refléter des changements de cristallographie. Alors là, voilà de la diffraction de rayons X. Alors, je n'ai pas à vous faire un cours sur la diffraction, mais d'un point de vue pratique, si vous regardez, par exemple, un pic donc, qui correspond à une réflexion là, en diffraction, celui-ci, c'est le premier pic normalement le plus intense de l'illite, vous voyez qu'en fonction de la profondeur, la morphologie, hein, le profil de ce pic, de ce pic de diffraction, change considérablement. Et d'autre part, si vous remplacez l'eau par une molécule organique, l'éthylène glycol par exemple, eh bien vous voyez qu'on peut même changer la taille, l'espacement. Autrement dit, là, eh bien on rejoint ce qu'Alain nous expliquait tout à l'heure. Ce n'est plus vraiment de l'illite, c'est de l'illite dans laquelle il y a quelques feuillets expansibles, peut-être de la montmorillonite justement, en tout cas de la smectite probablement, et qui va se retrouver interstratifiée dans cette illite. Donc on voit très bien que cette quantité d'interstratifiée, elle diminue régulièrement avec la profondeur pour totalement disparaître. Donc si on est capable d'avoir une lecture un peu plus précise de ces profils, et ça, bah, les outils numériques le permettent de le faire, hein, on peut parfaitement analyser ces profils, les décomposer, on parle de décomposition en un certain nombre de composantes qui ont une réalité cristallographique, hein, dont on peut vérifier ça sur plusieurs pics, bien entendu, du même minéral, eh bien on est capable de quantifier ces proportions. Et on est capable de reporter ça dans des diagrammes que l'on va adapter. Par exemple, là, eh bien, on voit qu'en fonction de la profondeur, on a un changement très important de la position de ce pic d'interstratifié. Alors ça, c'est ce qui existe quand on peut le contrôler. Mais maintenant, au cours des temps géologiques, il faut savoir que dans les réservoirs, les roches peuvent changer par la tectonique. Les panneaux se déplacent verticalement, mais avec des amplitudes qui sont plurikilométriques. 500 mètres d'intervalle, vous pouvez trouver des roches qui ont été enfouies à 5 km et d'autres qui n'ont jamais été enfouies à plus de 2 ou de 1 km. Eh bien, il suffit de regarder les argiles, de repositionner, et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en évidence tous ces mouvements verticaux qui ont eu un rôle important dans l'histoire de la diagenèse, autrement dit, de la formation des roches à partir des sédiments. Qualité réservoir, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Là, je pense que c'est assez intéressant de voir comment concrètement ça s'exprime. Voilà ici un grès enfoui à 1000 mètres. C'est un grès qui vient de mer du Nord. Hein. C'est une formation qu'on connaît très bien, qui s'appelle la formation Brent. Alors, vous voyez qu'à 1000 mètres, c'est à peine consolidé. Hein. Les grains, c'est encore pratiquement le sable de la plage. On voit bien qu'il y a déjà quelques petits cristaux qui se sont formés, mais c'est très limité. Voilà la même formation un peu plus loin, enfouie à 3000 mètres. Vous voyez que là, c'est une autre histoire. Vous voyez que les cristaux, même très petits, ça peut avoir des morphologies assez extraordinaires. Hein. Ben, vous voyez, là, les améthystes dont on parlait, ben, voilà des cristaux de quartz. Hein. Voilà des cristaux de quartz qui se sont formés par cet empilement. Voilà ici des cristaux de carbonate. Et tout ce que vous voyez par là-dessus, ce sont nos argiles, en particulier les illites dont je viens de vous parler. Cette roche est très poreuse et très perméable. Cette roche est déjà un peu moins poreuse et beaucoup moins perméable. Donc, évidemment, dans un tel contexte, eh bien, on va pouvoir s'interroger sur la réalité de la prospection pétrolière. Alors, la porosité et la perméabilité sont deux propriétés qui ne sont pas directement corrélées dans ces contextes-là, parce que la perméabilité, c'est la possibilité de transférer des solutions d'un port à l'autre. Et puis, bien, suivant la nature des minéraux argileux, ça ne sera pas du tout la même. Quand on est dans des milieux, par exemple, où la smectite est présente, on voit que les pores sont de grande taille, certes, mais par contre, les gorges qui permettent de contacter ces pores sont très souvent obturées, voire totalement fermées, par ces voiles argileux qui interdisent toute communication. Donc ces roches ont une grande porosité, mais une perméabilité très faible. très mauvaise qualité réservoir. Voilà si une roche, par contre, dans laquelle la kaolinite se transforme en dikite, effectivement. Et là, dans ce cas-là, la porosité est déjà beaucoup plus limitée que dans ce cas présent. Par contre, la perméabilité est encore de très bonne qualité. Donc cette roche-là est une roche réservoir avec une bonne qualité réservoir. Celle-ci ne l'est pas. Évidemment, il existe des modèles empiriques qui, en fonction de la nature de l'argile et la façon dont elle se dépose, vous permettent de prédire comment vont évoluer à la fois porosité et perméabilité. Et pour terminer avec le pétrole, eh bien, je vais vous présenter une application qui vous montre un petit peu comment finalement, la signature des argiles n'est pas toujours la même quand on passe d'une espèce argileuse à une autre. Et en particulier, dans le domaine du pétrole, il y a une énigme qui a duré pendant un certain nombre d'années qui concerne les chlorites, qui sont une variété d'argile. Donc, et ces argiles, elles ont la qualité, une qualité tout à fait intéressante pour les pétroliers, c'est que même dans des roches enfouies à très grande profondeur, elles conservent des porosités considérables. Tout ce que vous voyez ici en bleu, ce sont des espaces vides dans la roche. Et voici la même roche dans un forage qui est juste à côté, mais par contre, où là, il n'y a pas de chlorite, et là, il n'y a quasiment plus du tout de porosité. Donc, vous voyez, 25%, entre 20 et 25% du volume de la roche est encore accessible par les solutions. Ici, on n'a plus que 5 à 6% d'accessible. L'explication pour comprendre ce phénomène, bien l'explication, d'abord, si on regarde les choses, je dirais, en grossissant progressivement, on voit très bien que tous nos grains, qui sont ici des grains de quartz, sont recouverts par ces espèces de petits poils ici, qui sont bien les chlorites, les voilà. Et on voit qu'elles entourent tous ces grains. Et si on observe ça avec des méthodes un peu plus appropriées, voilà de la microscopie, par exemple, électronique à balayage, eh bien on voit que ces petits poils, ce sont des paillettes d'argile. Et ces argiles, bien entendu, on peut les regarder en grossissant un peu plus. Et vous voyez que les argiles, ce sont vraiment des cristaux. On voit les empilements des lamelles. Bon, vous voyez ici, on a grossi 15 000 fois. Et on voit évidemment des formes cristallographiques, enfin des faces, je veux dire, bien exprimées. Si l'on veut comprendre un petit peu les relations entre ces cristaux et leur substrat, bien rien ne nous empêche de faire des coupes minces transverses, c'est-à-dire qu'on coupe des techniques comme cela qui nous permettent de couper, puis de regarder, toujours avec un microscope électronique, mais cette fois en grossissant beaucoup plus. Là, on a des échelles nanométriques, vous voyez ici, c'est 300 nanomètres. Et vous voyez les relations entre le substrat, qui est le grain de quartz du grès, et les argiles qui se sont formées par-dessus. Et là, on voit par exemple que ces argiles ici, elles étaient présentes très très précocement dans le milieu puisque le quartz n'a pas pu continuer de grandir comme il le fait classiquement en diagenèse. Vous avez vu tout à l'heure les roches que je vous ai présentées à 3000 mètres. On voyait ces magnifiques cristaux de quartz. Eh bien ici, ce sont de tout petits bubons, là, comme vous voyez ici, là, qui sont présents là et là, parce que tout simplement, ils n'ont pas pu se développer plus loin puisque tout était évidemment obstrué par ces cristaux. Alors pour comprendre un peu mieux comment se sont formés ces cristaux, il faut aller un peu plus loin et on va grossir un peu plus. Et cette fois, effectivement, on va faire de la microscopie électronique, mais à haute résolution, même à très haute résolution. Et à ce moment-là, on va voir dans des directions cristallographiques bien définies apparaître les plans atomiques. Et par exemple, ici, les plans, ce qu'on appelle les plans 001, donc, qui sont caractéristiques de la chlorite. La chlorite a des espacements de 14 angstrom, c'est bien connu. Sauf que, de temps en temps, on a un défaut, si je peux dire, dans la succession, avec l'apparition de feuillets à 7 angstrom. Et souvent, ils sont individuels ou en nombre impair. L'explication de la présence de ces feuillets, elle est à rechercher dans le mode de formation de ces chlorites. Ces chlorites, ce sont tout simplement la transformation d'un minéral qui a une forme, qui est la forme définie tout à l'heure pour la kaolinite, mais qui n'a pas la chimie de la kaolinite. Il contient du fer, c'est comme si on avait changé, substitué du fer 2 à l'aluminium de la kaolinite. Et puis, avec deux feuillets de berthierine, je peux reconstruire un feuillet de chlorite, mais il me faut quand même, ce n'est pas qu'une simple addition. Il faut passer par une étape, je dirais, un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement utiliser de la diffusion sur des distances extrêmement courtes. Je vais déplacer un atome de silicium et puis un atome d'hydrogène, je fais de l'interdiffusion entre mes deux feuillets ici, et je vais tout simplement, à ce moment-là, réussir, à partir de mes deux feuillets de berthierine, à constituer une structure de type chlorite. Alors ça, c'est assez fondamental. Vous voyez, on est à l'échelle nanométrique, et ça nous explique tout ce qui se passe dans ces réservoirs, puisque cette transformation-là, elle se fait à volume constant. À aucun moment, vous passez par une dissolution du cristal, vous ouvrez jamais, tout reste fermé, et vous changez très progressivement, à toute petite échelle, en déplaçant simplement des atomes, et vous changez de nature cristallographique. Résultat, vous préservez un état très précoce de la roche, un état initial, et vous le préservez tant que la dissolution n'aura pas lieu. Alors, vous voyez, la haute résolution vous permet de voir ce passage latéral. Bien entendu, là, la rotation du tétraèdre, on ne la voit pas. Hein. Ça, c'est une interprétation telle qu'on l'a fait. Mais on voit très bien le passage des feuillets à 14 à 2 feuillets, ici à 7. Évidemment, si vous avez un milieu où le nombre de feuillets de Bertierine n'est pas pair, eh bien, fatalement, il va vous rester dans le système à la fin de la réaction, de temps en temps, localement, des feuillets isolés qui vont constituer des défauts dans la structure. Bon, il est temps de quitter le pétrole et on va parler un peu uranium. Alors, parler uranium, hein, à chaque fois qu'on parle de l'uranium, on sent tout de suite, effectivement, les gens ont tout de suite une vision, uranium, atomes, énergie atomique, bombe, etc. Mais l'uranium, ce qu'il faut savoir, c'est que l'uranium, il est étroitement lié à la vie. Et ça, ça peut paraître assez paradoxal, mais sans la vie sur Terre, nous n'aurions pas de gisement d'uranium. C'est le vivant qui est à l'origine des gisements d'uranium à la surface de la Terre. Et le vivant, comme l'uranium, dépend de l'oxygène, enfin la forme du vivant que nous connaissons. Le vivant était là bien avant que l'oxygène arrive dans l'atmosphère et soit dissous dans l'eau. Mais simplement, quand l'oxygène est arrivé, puisque le vivant évoluait, eh bien, beaucoup de chercheurs pensent que l'arrivée de l'oxygène sur la Terre, ça a été une catastrophe, mais vraiment une catastrophe planétaire. Je m'explique. Toutes les formes de vie qui vivaient sans l'oxygène se sont trouvées dans un milieu éminemment toxique. Hein, si nous mourons, c'est par oxydation, hein, effectivement. Et ces formes de vie qui n'étaient pas habituées à vivre avec l'oxygène, eh bien, ont disparu en masse à ce moment-là. En tout cas, c'est la façon dont beaucoup de chercheurs dans ce domaine l'interprètent. Et d'autre part, l'arrivée de l'oxygène à la surface de la Terre a totalement bouleversé la géochimie des éléments. Beaucoup d'éléments chimiques sont dépendants de ce que l'on appelle la fugacité en oxygène dans le milieu, c'est-à-dire l'état d'oxydation du milieu. Alors parmi ces éléments, je peux en citer beaucoup que vous connaissez très bien, le fer, le manganèse, l'uranium, sont très très dépendants de l'oxydation du milieu, de l'état d'oxydation. Quand je dis dépendant, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que si vous êtes dans un milieu oxydant, le fer, il est 3, et quand le fer, il est 3+, il ne passe quasiment pas du tout en solution, vous ne le transportez pas, il précipite, c'est la rouille, vous avez tous vu la rouille, ben c'est exactement ce phénomène. Par contre, en milieu réducteur, quand il n'y a pas d'oxygène à la surface de la Terre, le fer se déplace dans les solutions sans problème. L'uranium, c'est exactement l'inverse. L'uranium, sous sa forme oxydée, donc uranium, il est 6+, il est extrêmement mobile. Si vous passez dans une forme réduite, l'uranium 4+, c'est 10 000 fois moins mobile que l'uranium 6+. Résultat, eh bien, quand la Terre était en milieu réduit, avant l'arrivée de l'oxygène, l'uranium était totalement disséminé en très faible proportion, mais un peu partout, à la surface de la Terre et dans les roches, bien entendu, de la surface de la Terre. Le jour où l'eau est devenue oxydante, elle a solubilisé tout cet uranium, elle l'a transporté, et à chaque fois qu'elle s'est trouvée dans des conditions où d'un milieu oxydant, elle passait dans un milieu réducteur, elle a précipité brutalement cet uranium. C'est comme cela que se sont formés les gisements. Et à l'origine de l'oxygène, c'est le vivant. Sans le vivant, jamais ces choses-là ne se seraient produites. Mais à quoi pouvait ressembler la surface de la Terre à ces périodes très anciennes, hein, où l'oxygène est arrivé à la surface de la Terre en masse ? Eh bien, voilà un petit peu la façon dont les géologues voient ces choses-là. Cette période, qui se situe aux alentours de 2 milliards d'années, à peu près, hein, il y a 2 milliards d'années, donc la Terre existait déjà depuis 2 milliards 400 millions d'années, un peu plus, eh bien, à cette époque-là, tous les continents étaient pratiquement réunis en une seule plaque. Et on était au début d'une phase où la Terre commençait à avoir une très forte dispersion de ces continents. Et cette forte dispersion a généré des conditions qui ont permis de former de multiples bassins sédimentaires. Mais ces bassins sédimentaires, ils ont une particularité, ils sont apparus au milieu des continents. Autrement dit, c'est ce que nous appelons, nous, en géologie, des bassins intracratoniques, au milieu des cratons. Et ces bassins, évidemment, eh bien, ils sont les premiers bassins qui se sont formés avec de l'eau oxygénée, en tout cas riche en oxygène. Ce n'est pas de l'eau oxygénée, bien entendu. C'est de l'eau qui est riche en oxygène. Donc cette eau, eh bien, elle a amené certains éléments. Et en tout cas, dans un premier temps, elle a précipité le fer partout. tous les grands gisements de terre, de fer qu'on utilise dans notre système, eh bien, viennent de ces milieux-là, hein, ce qu'on appelle les BIF, là, les Banded Iron Formation. Et puis, ben, l'uranium aussi a pu se former en masse à cette époque-là. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement d'un petit bassin, un petit bassin qui se trouve, vous voyez, au centre du craton canadien, ici, là, au nord du Saskatchewan. Ce bassin, c'est le bassin d'Athabasca. Il a deux spécialités, ce bassin. Hein. Une qui, effectivement, intéresse l'économie mondiale. Hein, 35% des réserves mondiales d'uranium viennent de là. Une autre qui me concerne beaucoup plus, c'est que c'est dans ce bassin d'Athabasca, dans ce lac Athabasca, qu'on a pêché la plus grosse truite du monde. Voilà. Hein. Il faut le dire quand même, parce que ça, on en parle beaucoup moins. Mais c'est la réalité. Bon, très clairement, dans ce bassin, eh bien, il y a une quantité de gisements colossale. Dans un bassin qui fait actuellement 400 km de long pour 200 km disons de largeur, donc très petit, hein, qui s'est formé il y a 1,7 million d'années et où, dont les gisements sont tous répartis à la périphérie. Alors, cette notion de périphérie n'a aucun sens géologiquement. Ces bassins, à 1,7 milliard d'années, bien entendu, sa taille était bien plus considérable que ça. L'érosion lui a ramené maintenant sa périphérie dans ce domaine-là. Mais, bien entendu, il est probable qu'il occupait une grande partie de la surface de ce craton. Dans la partie centrale, ici, nous n'avons jamais rien trouvé. En fait, nous n'avons jamais su trouver, tout simplement, parce que c'est trop profond. L'uranium, on a l'impression que c'est facile à trouver, c'est radioactif, donc il suffit de chercher la radioactivité. Le seul problème, c'est que la radioactivité dans les roches, la portée du rayonnement radioactif est infiniment faible, donc vous ne pouvez pas le détecter à distance. Il faut vraiment être dessus pour le trouver. Donc si vous êtes dessus, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Comment s'est formé ce bassin ? Ben, si je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des sédiments avec de l'eau riche en oxygène qui s'accumulent, qui se litifient, donc qui vous forment ici ce qu'on appelle de la diagenèse, donc comme on l'a vu pour les roches pétrolières. Et là, ben, dans ces solutions, il y a beaucoup d'uranium, qui est à l'état 6+, qui vient du lessivage de toutes les roches autour qui ont été ramenées, et puis les sédiments ont amené l'uranium. Le socle qui est en dessous, les roches qui sont en dessous, elles sont des roches beaucoup plus anciennes, donc qui étaient essentiellement des roches réductrices. Elles contiennent également de l'uranium, mais évidemment, cet uranium, il est immobile. Tant que les choses s'accumulent comme ça, il ne se passe rien. Deux compartiments qui vivent indépendamment. Et puis, à un moment donné, la géologie, la Terre est dynamique, elle se fracture, les plaques commencent à bouger. Et puis, évidemment, on crée des failles. Et à ce moment-là, vous réunissez les conditions pour que l'eau oxydante qui transporte de l'uranium ici, 6, eh bien, va venir altérer le socle, va également lessiver tant qu'elle est oxydante l'uranium qui était lui-même dans le socle. Et tout ça va remonter par ces grandes structures. Et quand ça va revenir en contact avec ces solutions ici, qui sont des solutions riches ici en oxygène, eh bien, vous allez avoir ce qu'on appelle un front redox qui va précipiter des grosses quantités ici d'uranium. C'est comme cela que se forment ces gisements. Et toute cette zone d'altération qui est générée, enfin qui est mise en jeu dans ce phénomène, elle va fabriquer des argiles. Donc, le gisement, il est emballé dans l'argile. Mais le gisement, il est très petit. Même les plus gros gisements de ce coin-là, ce sont des objets qui sont de petite taille. Le plus gros gisement du bassin d'Athabasca, il fait à peu près 200 mètres de long, il fait 20 mètres de large et à peu près 40 mètres de haut. Et il est à 700 mètres de profondeur, sous des sédiments. Pour le trouver, c'est quasiment impossible. On peut faire des forages, mais ça va nous coûter une fortune, je veux dire, pour arriver à trouver. Donc là, effectivement, il y a un problème. Il faut trouver un marqueur externe qui nous permet de savoir si oui ou non, on peut raisonnablement espérer trouver l'uranium. Le marqueur, on l'a, c'est l'argile. Maintenant, le message, il faut le trouver. Alors avant de vous montrer le message, la façon dont on le cherche, bien, quand même quelques illustrations. Voilà les roches du socle réducteur avant l'altération et avant le transport de l'uranium. Voilà les mêmes après l'altération. Là, c'est de l'argile à 100%. Vous voyez que pour un géologue sur le terrain, il n'a pas besoin d'être très averti. Hein, quand on fait ce qu'on appelle du logging, des forages, on n'a pas trop de difficultés pour voir où est le halo d'altération. Voilà ici le front redox. Hein, donc, où se dépose l'uranium? Tout ce qui est noir ici, bah, c'est de la pêche blinde massive ici. Ce qui est oxydé, bah, vous connaissez la couleur hein, des oxydes de fer. Hein, donc, la rouille, elle est là. Ce qui est réduit, c'est blanc. Hein. Et vous pouvez trouver comme ça des zones très enrichies, 5% d'uranium concentré dans cette roche. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. On peut arriver, voyez, sur plusieurs mètres 54% d'uranium. Ça, c'est 100% de pêche blinde, pratiquement, sur plusieurs mètres d'épaisseur. Donc, ce sont des vrais lingots, hein, à ce moment-là, qui sont effectivement très difficiles à trouver. Alors, le problème, le voilà. Hein, le problème, il est relativement simple. Où se trouvent les futurs grands gisements d'uranium ? Dans le bassin d'Athabasca, il y en a, c'est sûr. Toutes les techniques sont bonnes pour chercher l'uranium. Mais là, en tant que chercheur, je peux vous le garantir, la démarche individuelle, c'est jamais traité. Non, c'est pas efficace. Hein, c'est comme pour tous les travaux. Il vaut mieux travailler collectivement. Donc, effectivement, les géologues, ben, ils réfléchissent de temps en temps. Ils peuvent même réfléchir très longtemps, indépendamment des conditions atmosphériques. Et dans ces cas-là, eh bien, ils en arrivent à des conclusions. Ben, c'est sûr, les gisements d'uranium, ils sont plus profonds et on ne sait pas les trouver par les méthodes de géophysique et autres. Et il faut trouver de nouvelles pistes. Et une piste très prometteuse, ben, la piste même, c'est trouver par où sont passés les radioéléments qui étaient dans le bassin. Si on trouve le chemin par où ils sont passés, ben, il suffit de suivre le chemin et on trouvera le gisement. Le problème, c'est que c'est de la radioactivité qui existait il y a 1,7 milliard d'années, 1,5 milliard d'années. Mais il y a une piste. Il y a une piste très, très intéressante. C'est le dosimètre argile. Les argiles sont des dosimètres. Alain nous l'a dit tout à l'heure. Quand on les soumet à des rayonnements issus de la radioactivité, les argiles, eh bien, elles acquièrent des défauts. Et parmi ces défauts, certains, ce sont des défauts électroniques, hein, donc liés, qui mettent en jeu les électrons dans la structure de l'argile, certains défauts électroniques sont stables sur des périodes géologiques. Donc très longtemps après que la radioactivité ait fait son œuvre, on est capable d'enregistrer la dose de radioactivité subie par l'argile. C'est la théorie, le principe même du dosimètre. Comment ça marche ? Ben, voilà une kaolinite. Hein, parce que je reste là-dessus, finalement c'est simple, c'est une structure simple, ma couche tétraédrique, ma couche octaédrique, comme l'a dit Alain tout à l'heure, mon oxygène qui me permet de lier mon tétraèdre ici à mon octaèdre, et puis bon, déjà, pour l'instant, tout se passe bien, voilà le cristal parfait. Bon, dans la nature, les minéraux argileux ne sont pas parfaits, on l'a déjà dit, et très souvent, ils sont sujets à des substitutions. Et certaines de ces substitutions, qui consistent à remplacer un atome par un autre, sont ce qu'on appelle hétérovalentes. C'est-à-dire que la valence du cation n'est pas la même, donc par conséquent, on crée une charge. En l'occurrence, ici, si je mets un 2+ à la place d'un 3+, j'ai une charge moins qui se crée dans ce système-là. Et il faudra bien que j'équilibre en mettant quelque part des cations compensateurs ou autre chose qui va me permettre de rajouter une charge plus. Si je suis dans un contexte où la radioactivité est en action, eh bien, je peux avoir une alternative. C'est que effectivement, mon rayonnement, le rayonnement alpha par exemple, qui est très abondant dans la radioactivité, ben, ma particule d'hélium là, eh bien, elle est capable de désappareiller les électrons des couches électroniques de l'atome, et en particulier de mon atome d'oxygène là qui fait mon pontage entre les deux. Et à ce moment-là, eh bien, mon oxygène, il a perdu un électron, donc cet électron est devenu célibataire. Et le fait qu'un électron devienne célibataire dans une structure de ce type-là, eh bien, ça change complètement les propriétés magnétiques à une échelle très locale dans le cristal. Ce cristal qui était diamagnétique, donc pas influencé par un champ magnétique, hein, il crée une force qui repousse le champ magnétique, c'est tout, il devient paramagnétique. Donc, si vous le soumettez à un champ magnétique, il est capable de s'aimanter le temps qu'il est effectivement soumis à ce champ. Et ça, par contre, cette propriété-là, on sait la sonder par des spectroscopies, et en particulier une spectroscopie qui s'appelle la résonance paramagnétique électronique. C'est très proche de la RMN, simplement, on s'intéresse aux électrons et pas aux noyaux, hein, mais c'est à peu près le même principe. Et ça, ça nous permet eh bien, d'identifier la nature du défaut électronique, d'une part, et d'autre part, de comprendre, de mesurer la concentration de ce défaut. Alors voilà, une partie du spectre RPE de ces kaolinites, et voilà des kaolinites qui, dans ce contexte-là, sont à, je dirais, quelques dizaines de mètres d'un gisement, à plusieurs centaines de mètres et à des kilomètres du gisement. Vous voyez tout de suite que l'intensité du signal change considérablement. Mais de cette intensité-là, on peut passer à des valeurs quantitatives, hein, en appliquant effectivement des méthodes, hein, de quantification. Donc on mesure la concentration en défaut, et cette concentration en défaut, à l'échelle du bassin d'Athabasca, eh bien, on peut effectivement vérifier si elle peut nous apporter des informations. Et les informations sont absolument, assez étonnantes, malgré l'âge de cette formation, parce qu'on pourrait penser que beaucoup de ces défauts sont cicatrisés. Il en reste suffisamment pour qu'on voit des contrastes très importants.
D'une part, on mesure un fonds régional, c'est-à-dire pour le bassin d'Athabasca, il y a une concentration des faux qui est reproductible à toute échelle. Et quand on va arriver sur toutes les structures géologiques qui sont susceptibles d'avoir transporté de l'uranium en solution, on va en trouver un certain nombre dans lequel eh bien, les concentrations des faux sont tout à fait dans le fond régional. Celles-là sont dites stériles, aucun intérêt pour la prospection. Par contre, on va en trouver d'autres où là, les ordres de grandeur, vous voyez, on a jusqu'à 4 ordres de grandeur en termes de concentration en défaut que l'on peut trouver. Et bien entendu, là, on a le chemin par où sont passés les éléments radioactifs. Pas nécessairement l'uranium, tous les éléments radioactifs mobiles. Mais dans ces contextes-là, bien entendu, c'est l'uranium qui est le principal acteur. Bon, passons aux énergies renouvelables pour finir. Alors, les énergies renouvelables, par exemple, l'énergie géothermique. L'énergie géothermique, bien effectivement, tout le monde cherche l'eau chaude, si je peux dire. Et l'eau chaude, bien, comme je vous l'ai dit, la meilleure façon dans le système géologique de retrouver l'eau chaude, c'est peut-être de regarder ce qu'elle fait quand elle interagit avec la roche. Eh bien, elle fait des argiles. Et voilà ici, par exemple, des montmorillonites dont on parlait tout à l'heure, qui se forment dans un champ géothermique qui est le champ géothermique de haute énergie qui est exploité en France. C'est le champ de Bouillante en Guadeloupe. Donc, à Bouillante, nous avons un champ géothermique qui produit de l'électricité avec deux centrales géothermiques qui, en pleine exploitation, peuvent alimenter jusqu'à 10 à 15% de l'énergie électrique de la Guadeloupe. Un champ géothermique, qu'est-ce que c'est ? Souvent, c'est lié à du volcanisme. En Guadeloupe, ce sont effectivement des volcans. Ces roches volcaniques sont fortement fracturées et dans ces roches très fracturées, on a des infiltrations d'eau qui viennent au contact des roches chaudes ou à proximité des magmas qui se réchauffent énormément et qui vont circuler dans tout ce réseau fracturé et vont alimenter éventuellement des échanges entre des parties profondes de la Terre et des parties superficielles avec des cycles de recharge et de décharge de ces fluides qui font que vous avez un cycle de l'eau qui peut s'instituer et donc vous avez une énergie que l'on appelle renouvelable parce qu'effectivement, vous déplacez de l'eau, vous allez chercher des calories et vous les récupérez. Alors, la piste la plus intéressante pour retrouver l'eau, parce que dans ces contextes-là, pour trouver l'eau, il faut savoir par où elle passe et un petit peu comment elle se déplace. Eh bien, une des pistes intéressantes, ce sont les isotopes, et en particulier un des isotopes de l'élément chimique le plus abondant à la surface de la Terre, l'oxygène. Dans l'eau, il y a beaucoup d'oxygène. Et quand l'eau interagit avec les roches, qu'elle forme des argiles, eh bien, l'oxygène des argiles, bien entendu, est lié à l'eau qui a altéré cette roche. Et donc, vous allez avoir une signature isotopique de l'argile qui sera héritée de l'eau qui a généré le phénomène d'altération. Bien entendu, pas que de l'eau, de la température que vous avez dans le milieu et éventuellement, même sûrement, de la roche qui a réagi avec cette eau. L'oxygène, c'est un isotope stable, c'est-à-dire qu'en fait, la quantité de chacun des isotopes en oxygène dans la surface dans le système Terre, il est fini. Il est fini et il est constant. Par contre, l'oxygène, parmi ces trois isotopes, vous voyez, il y en a un qui évidemment domine d'une manière écrasante, c'est l'oxygène 16, 99,256%, on pourrait dire quasiment tout. Mais il y en a deux autres, un qui est très rare, l'oxygène 17, 0,039, et l'oxygène 18, le plus lourd, ici, 0,205. Eh bien, le rapport isotopique entre l'oxygène 18 et l'oxygène 16, il va être lié, finalement, ce qui va différencier ces deux isotopes, c'est leur masse. Et comme ils ont des masses différentes, eh bien, avec les processus géologiques, ils vont fractionner. Ils ne vont pas rester toujours dans les mêmes proportions, globalement, suivant les conditions du milieu. Alors, ce fractionnement, eh bien, on peut le calculer, par exemple, ce qu'on utilise classiquement pour l'oxygène, c'est le rapport isotopique, là, ici, de l'oxygène 18. Ce rapport isotopique, eh bien, pour le déterminer, on a besoin d'une référence. On prend l'eau des océans, parce que l'eau des océans, les océans sont des milieux où l'eau est totalement renouvelée à une périodicité très courte. Par conséquent, le rapport isotopique entre l'oxygène 16 et 18 est constant dans tous les océans. Et dès que vous allez aller dans des milieux un peu plus confinés, ça va changer. Pourquoi ? Eh bien, parce que si vous évaporez de l'eau, eh bien, dans la vapeur, vous allez concentrer les phases les plus légères. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous allez faire un enrichissement en oxygène 16, donc un appauvrissement en oxygène 18. Et donc, ce delta, eh bien, on le calcule simplement, c'est la concentration en oxygène 18 de mon échantillon, moins celle du standard, sur celle du standard, je multiplie par 1000 pour avoir des chiffres qui n'ont pas des 0,00 quelque chose, et puis j'obtiens des valeurs isotopiques donc pour ces différents constituants. Et voici ici la composition de l'eau des océans, qui, ma référence, évidemment, ça peut être que 0, mais voici ici la composition de l'eau qui est de l'eau de pluie, qui vient de l'évaporation de l'eau des océans pour l'essentiel. Et cette eau, vous voyez qu'elle est très appauvrie en oxygène 18. Effectivement, elle s'est enrichie en oxygène 16. Et vous avez ici la composition isotopique de toutes les roches qu'on trouve dans le système Terre. Et vous voyez que les roches, elles, au contraire, elles sont fortement enrichies en oxygène 18. Donc, quand vous allez faire interagir tout ça, eh bien, vous allez avoir une évolution importante de ces rapports isotopiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais dans un système comme Bouillante, par exemple, si vous utilisez cette méthode, vous êtes capable de déterminer la composition isotopique en oxygène 18 de tous les minéraux argileux que vous trouvez qui viennent de la réaction de la roche avec l'eau. À partir de cela, les constantes de fractionnement entre l'eau et les argiles étant connues, vous pouvez déterminer la nature de l'eau, puisque vous avez la température que vous pouvez mesurer dans ces systèmes. Vous allez déterminer la nature isotopique du fluide qui est en équilibre avec ces phases argileuses. Et à ce moment-là, eh bien, vous voyez que, par exemple, à Bouillante, vous avez trois domaines tout à fait distincts. Un domaine où vous trouvez des minéraux qui ne sont absolument pas en équilibre isotopique avec toutes les eaux que l'on peut rencontrer dans ce milieu-là. Ça, c'est une histoire ancienne qui a cessé d'exister. Et puis, par contre, vous allez avoir, eh bien, dans les parties plus superficielles, je dirais dans le premier kilomètre, beaucoup d'eau qui sont en total équilibre avec le fluide géothermique qui sort des forages. Et puis, quand vous allez arriver un peu plus près de la surface, par contre, là, vous allez trouver des eaux qui sont beaucoup plus proches de l'équilibre avec de l'eau qui est de l'eau de pluie. Donc, le résultat de tout ça, eh bien, vous pouvez reconstruire de cette manière-là, par ces rapports isotopiques, la façon dont l'eau circule dans ce système et, en particulier, comment détecter éventuellement des eaux plus profondes, chaudes. Eh bien, on s'aperçoit que les argiles qui sont stables avec ces eaux en équilibre avec le fluide géothermique, par exemple, ce sont bien des smectites, mais cette fois, ce ne sont pas des montmorillonites, c'est un problème de cristallochimie, là, ce sont plutôt des bakélites, donc des argiles un peu plus alumineuses, mais des smectites quand même. À l'inverse, quand vous allez arriver vers la surface, là, vous voyez très bien la zone d'influence des eaux météoriques, et elles, ce sont des montmorillonites et non pas des bakélites, et la signature isotopique, bien entendu, vous l'indique. Voilà. Il est temps de retourner à la recherche. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Donc, effectivement, on pourrait continuer. Bon, la recherche continue, c'est certain. Et puis, je dirais que pour conclure, et ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, la recherche, pour les argiles en particulier, c'est souvent essayer d'expliquer comment une éventualité extrêmement improbable, et c'est le cas, aller expliquer à quelqu'un qu'il faut regarder un électron célibataire dans un minéral argileux pour trouver un gisement d'uranium. Je l'ai fait moi-même. J'ai été monnayer une thèse avec des industriels sur ce domaine-là. Je ne cacherai pas qu'ils m'ont regardé avec une certaine incrédulité. Néanmoins, nous avons réussi à leur faire financer. Et aujourd'hui, ce sont eux qui nous financent énormément parce qu'effectivement, ça marche. Effectivement, parce que cette éventualité extrêmement improbable, elle s'est muée en certitude. Merci de votre attention. Ça, c'est ce que nous n'arrivons pas encore à faire, à expliquer comment faire marcher un crocodile sur l'eau. Mais nous ne désespérons pas. Il est australien, oui.
C'est pour revenir sur le bassin d'Athanaska. Ouais. Vous avez parlé de la plus grosse truite pêchée. Combien elle pesait ?
52 kilos.
C'est une belle bête.
C'est une belle bête.
Et j'ai une autre question un peu plus sérieuse. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Mais pour le stockage des déchets radioactifs, on le fait dans des sols qui sont très argileux. Et oui. Tout à l'heure, M. Meunier a dit que ça, le passage d'une particule alpha dans une structure argileuse le cassait,
Oui,
du coup.
C'est tout à fait vrai. On l'a vu, même les défauts que nous mesurons sont liés à cette radioactivité. Le seul problème, c'est que là, le champ d'activité du rayonnement lié à une décroissance radioactive. Le rayonnement le plus important généré par la radioactivité, c'est le rayonnement alpha. La pénétration, c'est 30 à 35 microns. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée de... Bon, il est clair qu'avec une barrière argileuse, mais vous pourriez mettre beaucoup d'autres barrières. C'est pas la barrière à la radioactivité, dans un premier temps, qui va faire que cette formation est une barrière géologique ou pas. Là, c'est beaucoup plus le problème de limiter le transport des éléments radioactifs, c'est-à-dire leur transport par des solutions. Donc là, on revient à des qualités. Je ne peux pas parler de qualité réservoir, parce que bien entendu, on prend des roches qui sont éminemment perméable et compacté dans ce cas-là, et des roches artificielles même souvent. Et en fait, c'est la qualité de ces roches et leur évolution au cours du temps face aux effets générés par la radioactivité. On a un effet thermique en particulier, hein, lorsqu'on a de la radioactivité en quantité, qui lui peut modifier les chemins de circulation des solutions qui éventuellement, dans un schéma ou un scénario catastrophique, pourrait venir jusqu'à lessiver les colis, par exemple, radioactifs, et par conséquent, permettre à ces éléments radioactifs d'être réintégrés dans la biosphère.
Ok, d'accord.
Mais la radioactivité, à proprement parler, directement, non, pour les minéraux argileux. Par contre, oui, pour le colis métallique, souvent, qui va contenir directement le déchet radioactif. Là, on peut avoir un effet, enfin, on ne sait pas, on a un effet de corrosion, de ces conteneurs par la radioactivité. Ouais. Comme vous avez dans une centrale nucléaire, une corrosion de toute la chaudière, si je peux dire, hein, lors du fonctionnement d'une centrale.
D'accord. Et du coup, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé à l'heure actuelle.
Je pense pas. Je pense que le meilleur moyen, je ne sais pas s'il existe. Hein, je pense que, bon... Là, nous sommes face à un problème, je dirais, qui est un problème un petit peu conceptuel, c'est-à-dire que le meilleur moyen dépend du concept que l'on veut utiliser. Bon, effectivement, là, il y a des quantités de concepts qui ont été proposés depuis une trentaine d'années. Bon, moi, je ne suis pas directement impliqué dans ces opérations-là, mais j'ai vu un peu l'évolution des choses. Bon, on est passé de concepts où il fallait stocker les choses irrémédiablement dans des roches pour les oublier. Hein, je prends exactement les termes. Hein. Il fallait que dans un certain laps de temps, on soit capable d'avoir perdu la mémoire et de pouvoir revenir vivre ici sans aucun souci. On est passé dans des concepts où on se dit que finalement, quand même, il vaut mieux toujours les avoir sous l'œil parce qu'on n'est pas à l'abri d'une découverte technologique qui fera que ces déchets n'en sont peut-être pas. Et peut-être que ce sera une source d'énergie future ou peut-être même que ce sont des déchets, mais qu'on saura les retraiter différemment. Alors là, après... La décision n'appartient pas aux scientifiques. Les scientifiques sont là pour expliquer, essayer de comprendre les phénomènes. Après, ce sont des choix sociétaux. C'est à la société de décider. Mais pour qu'elle décide, encore faut-il qu'elle ait tous les éléments de décision entre les mains.
Ok. Merci beaucoup.
J'ai senti passer que les géologues travaillaient dans un temps très long. Leur matière, enfin votre matériau, c'est le temps. Et je suis quand même étonnée de voir dans cette continuité qui nous a été présentée, tout d'un coup l'irruption d'une grande fracture. Et dans cette grande fracture, eh bien, on se met à détruire en quelques heures ce qui a mis des millions d'années à se former, l'argile et le pétrole. Et au contraire, on se met à détruire de l'uranium pour produire des déchets dont on vient de parler, qui, eux, sont des créations humaines, qui pollueront pendant, qui menaceront très très fortement de détruire la vie sur des millions d'années. Là, je trouve qu'il y a une espèce de renversement du temps, renversement de toutes les temporalités qui me donne le vertige.
Écoutez, moi je pense que, bon, c'est vrai que les géologues sont... ont une déformation professionnelle hein, pour comprendre ce qu'ils voient ils sont obligés d'utiliser le temps. Le temps sur des durées qui sont considérables. Donc ce qu'ils voient, c'est qu'au cours de ce temps, les choses se sont constituées, mais se sont constituées de manière, je dirais, extrêmement chaotique en termes de déroulement des processus. C'est-à-dire que... Non, pas à notre échelle. Je parle à l'échelle des formations géologiques. Non, nous n'avons pas qu'une vision, nous sommes quand même capables un petit peu de mesurer, ça nous arrive, hein. Nous sommes capables de mesurer et nous sommes capables de confronter nos idées avec les autres scientifiques, bien entendu, hein. Sinon, nous pourrions effectivement arriver à certaines dérives qui pourraient remettre en cause une grande partie de ces travaux. Là, très clairement, la Terre, effectivement, est fragile, mais je dirais qu'elle est fragile par essence. Depuis qu'elle existe, elle a subi un nombre de phénomènes cataclysmiques, de crises, d'extinction d'espèces innombrables. La vie est toujours là, sous des formes qui changent, qui évoluent, qui se transforment, autant que les argiles, et probablement même un petit peu en relation avec les argiles, on l'a vu. Et ça, je pense que ça nous laisse quand même un petit espoir. Je ne dis pas du tout que l'activité et l'action de l'homme est angélique à la surface de la Terre, pas du tout, mais sommes-nous à ce point hors de ce système Terre ? Sommes-nous à ce point puissants pour être capables de détruire la Terre ? Permettez-moi d'en douter.
Beau débat. Beau débat, madame. Vous avez raison avec votre question. Nous sommes peut-être en train de nous détruire, nous, mais regardez, les premiers êtres qui se sont détruits, ce sont ces malheureux microbes qui ont fabriqué leur premier poison, l'oxygène. Ils se sont fusillés avec ça. Nous allons, alors peut-être que la vie sur Terre continuera sans nous, ça c'est bien possible. Mais il faut prendre la dimension de ce que nous sommes. Nous sommes, comme l'a dit Daniel, un élément de ce système chimique très particulier qui est la Terre. Nous proliférons jusqu'à ce que, si la géologie nous l'apprend de façon répétitive, c'est bien le cas, quand une espèce prolifère, c'est généralement très peu de temps avant sa disparition. Est-ce que c'est néfaste ? Bah, c'est néfaste pour nous, mais pour les microbes qui vont nous survivre, nous ne sommes qu'un épisode, c'est tout. Le problème des hommes, ce que je veux dire, c'est que nous nous croyons au centre du monde et nous ne le sommes pas. Nous ne sommes que des composés carbonés temporaires, éphémères, et nous allons rendre, moi le premier bientôt, notre carbone au grand tout. Bon.
Ne sois pas si hâtif.
Alors, j'ai un petit commentaire aussi sur l'uranium. Alors, l'uranium, il a une faculté, ce salopard, c'est qu'il se détruit tout seul, même sans qu'on intervienne. C'est un isotope instable, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup moins maintenant sur la Terre qu'il y en avait au début. Et tôt ou tard, on peut même calculer très exactement quand, il n'y en aura plus du tout, parce qu'il se détruit tout seul. Encore une fois, nous voyons toujours nos problèmes par notre propre lorgnette, mais nous ne sommes rien d'autre qu'un épisode temporaire.
Parce que quand même, je ne vais quand même pas trop laisser dire ça parce que c'est pas moi qui me situe au centre du monde. Ce sont ceux qui, au nom de leur confort à court terme, se permettent de déforester, de faire des déforestations, de détruire les autres espèces, de brûler le pétrole. Moi, au contraire, je veux me situer au niveau des autres espèces, dans le respect de la biodiversité. Bon, sans doute que nous allons à notre extinction, mais le moins vite possible, s'il vous plaît. De mort lente. Je veux bien mourir, mais de mort lente, s'il vous plaît.
Bon, je comprends votre inquiétude. Je vais quand même me permettre de vous faire une petite remarque qui est tout à fait en relation avec votre première question qui concernait effectivement... on va dire le nucléaire, d'une manière générale, avec tout ce qu'il peut induire comme, disons, déchets et nuisances à la surface de la Terre. Bon, vous le savez peut-être, la surface de la Terre, parmi tous les bassins dont je vous parle ici, vous voyez tous ces bassins qui existaient, eh bien, il en est un qui se trouve quelque part par là, voilà, qui s'appelle Franceville. Vous voyez ce petit bassin-là ? Eh bien, ce bassin... il a fabriqué naturellement, il y a 2 milliards d'années, 11 réacteurs nucléaires naturels. Ce bassin-là, à cette époque-là, se sont formés de façon tout à fait naturelle une chaîne de désintégration qui a permis de faire fonctionner pendant des centaines de milliers d'années des réacteurs nucléaires qui ont fabriqué.
Ils n'ont pas fabriqué de plutonium.
Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Je peux vous le garantir. Je peux même vous fournir. Ah ben ce plutonium, il n'existe quasiment plus puisque la durée de désintégration du plutonium est beaucoup plus courte que les périodes auxquelles nous sommes confrontés. Mais par contre, la radioactivité, elle a au moins une qualité, c'est qu'elle laisse des traces indélébiles, y compris dans les isotopes des éléments chimiques qui existent dans ce système. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de radioactivité induite, mais on trouve des isotopes tout à fait exceptionnels de plein d'éléments qui n'existent que par désintégration du plutonium. Par conséquent, on trouve encore, il a été trouvé quelques parties par million de plutonium, mais c'est infinitésimal. Par contre, on trouve évidemment toute la trace du fonctionnement de ces réacteurs. Et cette trace, eh bien, on peut la voir par effectivement des déséquilibres isotopiques inexplicables autrement entre les différents isotopes de l'uranium. On a consommé l'uranium 235 comme nous le faisons, dans nos réacteurs actuellement. On a généré des sources, des énergies thermiques considérables sur des volumes qui ne sont pas si considérables que ça, mais parfaitement identifiables. Et ces systèmes-là, eh bien, ont pu perdurer, mais à une époque, bien entendu, sur laquelle on n'a que très peu d'informations, puisque des bassins de cet âge-là qui sont conservés à l'état de bassin, aujourd'hui, on n'en connaît qu'un. Mais c'est au Gabon, c'est le bassin de Franceville. D'ailleurs, assez étonnamment, c'est à quelques dizaines de kilomètres du site où ont été trouvées les premières formes de vie multicellulaires dont on vient de parler ces mois qui ont précédé, là, enfin, depuis le mois de juillet. Vous voyez, c'est des choses assez étonnantes. Et là encore, je veux dire que si on a pu observer ces réacteurs, c'est parce que, effectivement, quand je dis qu'on ne resserre pas les plats, c'est qu'on n'aura jamais pu en former après. Par contre, avant, on en a formé, c'est sûr, mais ils ont disparu, consommés par la tectonique des plaques de la Terre. Alors pourquoi ? Bien parce que tout simplement, les deux isotopes de l'uranium, le 238 et le 235, ne se désintègrent pas à la même vitesse. Et pour déclencher une réaction de fission, eh bien, il faut une proportion d'uranium 235 suffisamment élevée. Il faut plus de 3% d'uranium 235. Comme il se désintègre beaucoup plus vite que le 238, passé 2 milliards d'années, impossible physiquement, par une voie naturelle, de pouvoir déclencher une réaction nucléaire. Mais avant cette époque-là, elle se déclenchait tout naturellement. Je ne pense pas que c'était plus sain pour l'environnement immédiat, mais tout simplement pour vous dire qu'effectivement, on apprend tous les jours des choses. Et jusqu'à cette époque-là, ces réacteurs ont été découverts en 1972. Jamais on n'avait conçu cela. Et je ne vous cacherai pas que cette découverte a jeté un certain trouble dans la communauté scientifique. Il a vraiment fallu en faire toute la démonstration avant d'être sûr que c'était bien ce phénomène-là. Je ne cacherai pas que les premières personnes qui ont découvert ça, l'uranium, avait quand même, surtout dans les années 70 encore, une application exclusivement militaire pratiquement. Et la première pensée des gens qui ont pris conscience de cela, c'est qu'effectivement cet uranium avait été traité, qu'on l'avait fait passer dans un certain nombre de centrifugeuses pour extraire l'uranium 235 que l'on ne trouvait plus. Bon, la réalité après est apparue, mais effectivement, il faut être modeste, y compris les scientifiques. Et d'ailleurs ça, nous apprenons tous les jours à l'être, puisque vous savez, le temps ne joue pas pour nous dans ce cadre-là. Rapidement, la vérité, elle évolue, elle se conforte et on s'aperçoit que les théories, les dogmes d'aujourd'hui sont peut-être appelés à être mis en cause.
Vous avez évoqué dans votre exposé justement une abondance de vie avant l'oxygénation de la Terre. On entend couramment dire, enfin j'entendais à l'Albanie hier, dire qu'avant bon, c'était quelques petites bactéries qu'on avait trouvées ici et là, et on ne pouvait pas a priori parler d'abondance de vie. Et je crois aussi savoir que juste avant l'émergence de l'oxygène, enfin pour parler bref, il y a eu une grosse glaciation, période de glaciation. Oui. Quel type de relation on peut établir entre tout ça?
Tu veux parler, Alain ? Je sens que tu as envie de dire quelque chose là. Ou je réponds. Non, ça ne me dérange pas, mais voilà. Bon, effectivement, un certain nombre d'auteurs pensent qu'il y a une relation entre ces phénomènes de glaciation et le développement de la vie. Puisque avant la découverte faite par Abder el-Albani et ses collaborateurs, déjà, les formes de vie pluricellulaires qui étaient connues, Ediacara, étaient des formes de vie qui s'étaient développées après une autre phase de glaciation importante. La Terre a connu, comme ça, plusieurs phases dans lesquelles elle était totalement recouverte, effectivement, par des glaces. Alors, la vie dans tout ça, alors les formes de vie, bon, maintenant, on est certain qu'il existe des formes de vie qui, je veux dire, quand le bassin du Gabon dont je vous parlais ici, un milliard d'années avant, déjà, on a des évidences de traces de vie, évidemment, qui ne fonctionnaient pas sur le cycle de l'oxygène, qui ne fonctionnaient pas de la même manière, mais qui pouvaient fonctionner déjà sur des cycles énergétiques qu'on connaît bien, qui fonctionnent toujours, qui sont les fumeurs noirs, par exemple, que l'on trouve sur les rides océaniques. Donc, je veux dire que les environnements pour déclencher des formes de vie étaient multiples. Par contre, toutes les formes de vie que l'on connaît jusqu'à cette époque-là, donc maintenant 2 milliards, 2 milliards 100 millions d'années, étaient des formes, on va dire, bactériennes, ou en tout cas unicellulaires. Ça, c'est les choses que l'on peut constater. Mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, le bassin du Gabon où ont été découverts ces fossiles, les roches qui contiennent ces fossiles, les roches qui entourent les réacteurs de Clos contiennent jusqu'à 7 ou 8% de matière organique, ce qu'on appelle les black shales. Ce sont les mêmes roches que maintenant les pétroliers veulent exploiter éventuellement. Donc ça veut dire qu'on avait quand même localement des accumulations de formes de vie extrêmement importantes. Extrêmement importantes. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les premiers stades, d'abord, les occurrences sont... Il faut trouver des sédiments, la plupart du temps, pour trouver ces formes de vie, qui persistent encore depuis ces époques-là. Donc le nombre d'occurrences diminue de manière quasiment exponentielle avec le temps. Donc c'est vrai que nous sommes assez limités dans les observations. Ceci dit, les moyens techniques s'améliorant, on s'aperçoit que de plus en plus d'articles font référence à ces découvertes de ces formes de vie. Il est certain que le gap là du milliard 500 millions d'années qui vient d'être révélé par Abder el-Albani, moi je pense qu'il ne va pas résister à quelques années de recherche. Je suis à peu près certain que maintenant on a brisé un tabou qui disait que la vie de toute façon ne pouvait pas multicellulaire, ne pouvait pas s'être formée avant à peu près un milliard d'années. Tout d'un coup, on recule de plus d'un milliard d'années. Plein de zones, on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est malheureux à dire. Et souvent, quand on trouve des choses qu'on ne cherche pas, on les néglige, on les laisse de côté, puisqu'on va avoir beaucoup de peine à le faire accepter et à le faire reconnaître. Et il faut une argumentation vraiment solide pour cela. Plein de zones qui étaient interdites, c'est-à-dire qu'aucun paléontologue au monde n'allait aller dans ce bassin de Franceville, ici, parce que c'était voué à l'échec d'entrée. Impossible de trouver un fossile. Et la preuve, ce ne sont pas des paléontologues qui les ont trouvés. Mais ce n'est pas un hasard, parce que ces gens-là n'étaient pas là pour chercher. Simplement après, ils ont pris contact avec des paléontologues et puis les choses se sont développées. Donc là-dessus, je pense qu'il faut être prudent. On n'est pas à l'abri de découvertes, y compris de découvertes contradictoires. Vous savez, là, on se heurte à des questions aussi importantes, c'est qu'à ces époques-là, chaque fois qu'on trouve une forme de vie, on en déduit souvent des quantités d'oxygène dans l'atmosphère et à partir d'un objet unique, recueilli dans une partie très particulière de la Terre, on homogénéise là la totalité de la surface de la Terre. Mais on peut penser qu'à cette époque-là, effectivement, la vie n'est pas apparue de manière homogène partout. Il n'est pas interdit de penser que localement, là où il y avait une activité biologique très importante, on pouvait générer beaucoup plus d'oxygène que dans d'autres. Et par conséquent, on pouvait créer des oasis, si je peux dire, hein, où effectivement l'évolution pouvait se dérouler un peu plus vite que dans la moyenne, disons, de la surface du globe à cette époque-là. Non, je ne dis pas qu'on sait rien, mais je dis qu'il y a encore beaucoup à découvrir.
Merci. Vous avez montré l'un et l'autre l'importance des argiles autour des ressources en pétrole, en gaz, en uranium. Alors expliquez-moi, c'est une odeur l'argile ? Parce que les avions renifleurs, c'était quoi ?
Ah oui, alors ça c'est intéressant d'ailleurs, parce que je pense que si les gens qui effectivement ont essayé de promouvoir cette... disons, cet outil, hein, parce que c'est présenté comme un outil, avait utilisé l'argile, je pense qu'avec un petit peu de chance, raisonnablement, on aurait peut-être découvert, non pas les vertus, mais au contraire, je dirais, bon, les avions renifleurs, là, nous sortons du domaine des géosciences. Hein, on sait très bien, hein, d'ailleurs, le promoteur des avions renifleurs n'était pas un géologue, hein, mais par contre, ça obéissait à des contraintes qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la connaissance, on va dire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On n'a jamais vraiment, oui, on n'a jamais vraiment su, bon, je dirais, comment on en est arrivé là. Bon, la seule chose qu'on sait, par contre, c'est ce à quoi ça a servi. C'est certain que ça a permis d'utiliser et de faire sortir des quantités de capitaux assez considérables qui sont perdues quelque part, mais pas dans les réservoirs pétroliers, je vous rassure.
Donc la grosse controverse il y a quelques années, c'était entre les granites d'Arrégion, vers la Chapelle-Bâton, et puis les fameuses poches d'argile dans l'Yonne, je crois, quelque chose comme ça. Alors, si j'ai bien compris...
C'est la Haute-Marne ou la Marne, je
sais. Oui, vu d'ici, c'est pareil. Ouais. Vu d'ici, c'est pareil. Donc, dans un camp, c'était, on les mettait dans l'argile. Donc, l'idée, c'était que dans l'argile, on aurait pu les ressortir et éventuellement les retraiter. Et on n'était pas embêté par des eaux qui, de ruissellement qui allaient pouvoir, si les bidons ne tenaient pas, les bidons, si les enveloppes ne tenaient pas le coup, ça n'allait pas se véhiculer partout. Or, vous avez bien montré quand même que la flotte circulait dans l'argile.
Oui, bien sûr.
Mais moins vite que dans les failles.
Non, l'eau circule dans les argiles, mais les formations argileuses qui sont totalement constituées, enfin du moins en majorité constituées par des argiles et qui ont subi un enfouissement par les sédiments, là deviennent des formations qui sont extrêmement compactes et là par contre très très peu perméables.
D'accord.
Mais il n'y a pas de formation géologique imperméable. L'imperméabilité,
non, mais par rapport aux failles
échelles, elle dépend du temps. D'accord. Il est certain que sur des durées, si vous raisonnez sur des durées importantes, vous allez nécessairement déplacer une petite quantité de fluide qui a la capacité de pouvoir transporter des éléments. Mais la gestion des déchets, on le voit bien, c'est une lutte contre le temps et c'est d'essayer de confiner pendant une durée. Alors là, je dirais qu'il y a eu plusieurs stratégies. Alors effectivement, tu parlais des granites tout à l'heure. Bon, il y a eu une époque où beaucoup de pays se sont lancés dans ce concept du stockage des déchets, bah parce que évidemment c'était tout à fait d'ailleurs compréhensible. Et c'est plutôt louable de se dire qu'on a des déchets et qu'on ne peut pas les laisser n'importe où, qu'il faut trouver des solutions. Ceci dit, ces pays ont pris des approches, hein, conceptuelles assez différentes. Et on a eu une période où, suivant les pays, certains ont dit, nous, on prend l'option stockage dans le sel. D'autres ont dit, on prend l'option stockage dans le granit. Granit de la Vienne, charroux, par exemple. D'autres ont dit, on prend l'option stockage dans des argiles. D'autres ont dit carrément, nous, on prend l'option de stockage carrément dans les roches volcano-sédimentaires, on stocke comme ça, etc. Bon, il y a eu toute une approche autour de cela. Le seul problème, c'est qu'au début, cette approche, elle était quand même basée effectivement sur le fait que ces déchets, on allait les rendre complètement transparents pour les sociétés qui allaient nous suivre, c'est-à-dire qu'on allait perdre la mémoire, comme je disais tout à l'heure. On devait être capable d'oublier. Il pouvait se passer n'importe quoi à la surface de la Terre. Bon, ça, on s'est aperçu, et tous les pays qui ont utilisé le stockage se sont rendus compte que effectivement c'était pas nécessairement la bonne approche et qu'effectivement il valait mieux garder un œil dessus, hein, y compris d'ailleurs pour effectivement peut-être les gérer de manière un petit peu plus disons adaptée aux technologies qui vont évoluer nécessairement. On peut pas dire à quel rythme, mais stocker des déchets, on voit l'évolution un petit peu des technologies nucléaires. Bon, on voit bien qu'actuellement beaucoup de déchets nucléaires n'en sont plus parce qu'ils présentent un intérêt économique. On est en train de vouloir les brûler parce que effectivement c'est une façon de.
On les met dans les casseroles.
On peut faire beaucoup de choses.
Mais vous parliez au passé de ce qu'on a appelé le laboratoire de Bure, et puis qui en réalité est un site où on espère encore faire, où les pronucléaires espèrent encore faire de l'enfouissement. Mais ça se situe au-dessus de dans le
pas loin, par exemple, de Contrexéville, de beaucoup de stations thermales. On a entendu ce que j'ai dit.
Enfin, moi, je vous entends, en tout cas, il n'y a pas de problème.
Non, mais nous, c'était pour souligner la légèreté des décisions concernant le nucléaire, parce que, en effet, on a beaucoup hésité, et puis on continue à y croire. Les pro-nucléaires, toujours, sont l'Andra et les autres, continuent à miser sur Bure, malgré l'opposition des populations qu'on a essayé d'acheter. Il y a toute une dimension, après, sociologique, politique, de ces problèmes. On sort de la géologie, mais on s'y engouffre aussi. Et on finit dans les stations thermales. Et dans le dernier mot. Et on risque de trouver en bouteille de l'eau radioactive.
On en trouve déjà, je vous rassure. Naturel, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez testé la radioactivité d'une eau comme Badoit, par exemple. Je vous invite simplement à faire une mesure radiométrique. Vous allez être un petit peu surprise. Oui, c'est de la radioactivité naturelle.
Je m'excuse, l'heure avançant, et donc par rapport à l'organisation de Mendès France. Donc je remercie encore M. Beaufort et M. Meunier pour leur intervention. Et donc, à bientôt pour le débat. Au revoir.
Désolé de vous avoir fait veiller.
Non, mais c'est pas nous, c'est que voilà, on termine de toute façon autrement. Oui. Voilà.